Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Bulletin sportif, l'avant-dernière de l'année 2025. On approche du temps des fêtes et comme on approche du temps des fêtes, ben, qu'est-ce qu'on veut faire penser à des cadeaux? Et pourquoi pas, tant qu'à penser à des cadeaux, pourquoi pas aller voir nos amis de chez Cycle Saint-Onge, partenaire officiel du podcast Bulletin sportif, Cycle Saint-Onge, situé à Grimbay depuis des dizaines d'années, les experts pour vous accompagner dans le choix d'un vélo ou de tout équipement ou de tout conseil dont vous pourriez avoir besoin. D'ailleurs, allez les voir, les gens de Cycle Saint-Onge à Grimbay. Ils vont pouvoir vous aider à faire vos choix et que vous soyez débutant, intermédiaire, niveau top gun. Ils sont là. Ils sont capables de vous donner un coup de main. Fait que peut-être qu'il y a un cadeau à donner à un cycliste parce qu'on connaît tous des cyclistes si vous n'en êtes pas un ou une vous-même. Donc, allez faire un tour. Allez regarder ce qu'ils peuvent vous offrir et surtout, parlez avec eux. Ils sont les meilleurs pour vous aider. Ils sont les meilleurs aussi pour nous aider parce que, comme je le disais, nos partenaires, et grâce à eux, bien évidemment, on est capable de vous offrir le podcast chaque semaine. Merci à eux et merci à vous d'être là encore une fois cette semaine, fidèles au rendez-vous. Non, non, il n'y a pas de football. Ceci étant dit, il y a en masse de choses qui continuent de se passer, qui s'est passé tout l'automne. Donc, on est content d'en faire un wrap-up, je vais le dire comme ça, un retour, on va regarder tout ça. Spécial aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup dans le volleyball avec Sabrina Maillé, le volley féminin, Danny Brown pour le volley masculin, universitaire, collégial. On fait le tour de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant cet automne. On met la table, pourquoi? Parce que, bien évidemment, au retour des fêtes, tout va se relancer, les batailles sont là. Basket, on met ça la semaine prochaine. Basket, un beau gros segment avec Jerry Néré, Jason Bryan, Jean-Baptiste qui va se joindre à lui aussi et à moi aussi, évidemment, pour faire le tour. Même chose qu'on fait avec le volley, bien là, on va le faire avec le basket avec eux pour vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis le début de l'automne. Moi, je profite maintenant quand même pour vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe un peu partout sur notre scène sportive, universitaire et collégiale. Je commence en vous parlant de ce qui s'est passé hier soir dans les bureaux de la Maison des sports et des loisirs à Montréal. On avait la remise de nombreuses bourses par la Fondation Aléo qui soutient les étudiants athlètes, les élèves athlètes partout au Québec. Depuis vraiment longtemps, depuis 1985, donc ça fait 40 ans qu'ils sont là. Avant, on les connaissait sous le nom de la Fondation de la Tech d'Excellence. Maintenant, c'est la Fondation Aléo depuis quelques années. C'est la même mission, vraiment soutenir les étudiants athlètes. Puis avec des bourses comme ça, bien, c'est intéressant. Ils en donnent à longueur d'année. Ils ont toutes sortes de partenaires. Mais hier soir, c'était vraiment avec les gens qu'on voit dans nos... dans nos sports au RSEQ, beaucoup, fait que c'est vraiment une occasion. En tout cas, j'ai été invité là, puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir y aller. Pourquoi? Ben oui, rencontrer le monde face à face, les voir, puis c'est très inspirant d'être entouré de ces gens-là qui performent extrêmement bien sur les terrains, dans les gymnases et compagnie, mais qui performent très, très bien également dans les salles de classe. Des humains de qualité, je le dirai jamais assez, il y en a énormément au Québec. Et on a donné hier 215 bourses pour près de 400 000 $ qui ont été offertes à différents étudiants et étudiantes athlètes de chez nous. Alors, bravo Fondation Aléo, bravo, bravo, un travail extraordinaire depuis 40 ans qui mérite d'être souligné. Puis oui, les étudiants athlètes les connaissent, mais les gens dans la société, les gens dans la population se doivent aussi de connaître ce que la Fondation Aléo fait pour nos jeunes. Alors, un gros bravo de ce côté-là. Soirée, encore une fois, réussie, excellente, qui permet de rencontrer toutes sortes de monde. Donc, voilà, très intéressant. Merci encore une fois. Je vais aller maintenant retourner sur ce qui s'est passé sur les patinoires, les parquets, qu'est-ce que vous voudrez de terrain un peu partout pour vous raconter ce qui s'est passé en fin de semaine passée. Rapidement, basket universitaire féminin et masculin. En fait, c'est intéressant parce qu'on avait deux équipes qui, il y a deux semaines, étaient toujours invaincues en fin de semaine. Pas dernière, l'autre d'avant. Laval chez les femmes et Bishops chez les hommes avaient sali cette, cette fiche qui était immaculée, qui ne l'est plus. Ben, dans les deux cas, les équipes se sont solidement vengées. C'était quelque chose. Donc, Laval chez les femmes qui ont battu Bishops 81-39. Bishops, ça, c'est l'équipe qui est deuxième au classement. Donc, une victoire de 81-39 de la part de, des filles de l'Université Laval. Et parce que c'est souvent le cas, programme double, on avait ben Bishops chez les gars ont décidé de rincer Laval 107-71. 107 points, là, c'est le cinquième plus gros total de points dans l'histoire. Dans l'histoire du basket universitaire masculin québécois. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de la victoire. Basket collégial, collégial féminin, là, ben, on a terminé, on est en pause. Juste vous dire, Saint-Jean, 7 victoires, aucune défaite. Ça, c'est une chose. Elles ont tiré de l'arrière depuis le début de la saison. Je suis allé faire un calcul pour m'amuser un peu. 14 minutes sur 280 minutes de jeu. Ça, ça veut dire que pendant 266 des 280 minutes de jeu qu'elles ont évolué, là, elles étaient soit à égalité, soit en avant au pointage. C'est tout simplement phénoménal comme domination. Chez les gars, on avait des matchs fort intéressants. Brébeuf avait perdu la semaine passée contre Montmorency. Se sont repris de belle façon des victoires contre Dawson et Champlain-Saint-Lambert. À noter, Julius Ferguson, 27 points, 14 rebonds contre Champlain-Saint-Lambert. Grosse, grosse, grosse performance de sa part dans une victoire très serrée de 92-89. On a aussi Sainte-Foy. Sainte-Foy qui a joué un gros match, battu Momo 84-70. Félix Arial, 23 points, 10 rebonds, 5 en 8 du 3 points et 4 à 6. Vraiment belle performance. Le basket collégial là, chez les gars notamment, là, ça va être une bataille de tous les instants. Ça en a été une à l'automne, ça va continuer de l'être à l'hiver. Ça va être très intéressant. Puis le championnat provincial se passe à Montmorency cette année du 5 au 8 mars, fait que, ou du 6 au 8 mars, excusez-moi. Donc ça, ça va être vraiment quelque chose qui va être à surveiller. On va être le bulletin sportif tout l'hiver, puis on va suivre ça de très près avec Jerry Neri notamment. Fait que surveillez ça. Je vous le dis, les batailles, les matchs qui vont se jouer, les équipes qui vont s'entrecroiser, battre un puis perdre contre l'autre, ça va être comme ça tout l'hiver. Donc, vraiment, vraiment le basket collégial D1 là, à suivre. Hockey universitaire, je m'en vais du côté masculin parce qu'on avait quelque chose de spécial. Ben, en fait, ça touche le collégial aussi. À Trois-Rivières, on avait la Coupe de la 55, un nouvel événement où est-ce que 4 équipes de juniors majeurs Maritime Québec qui ont organisé un tournoi, mais dans le cadre de ces activités-là, pendant une semaine de temps, on a des matchs extérieurs à l'hippodrome de Trois-Rivières qui se déroulent. Et vendredi dernier, on avait l'UQTR et McGill qui ont joué un contre l'autre, un match extérieur. Ça donne des superbes images. Allez voir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cool ce qui a été fait. Une victoire de l'UQTR 2-1 en prolongation. Et l'UQTR, par le fait même, maintient sa place de numéro 1 dans l'OUA. Franchement, une belle saison de la part des Patriotes. Et du côté féminin, on est à mi-saison. Les Stingers, 12 victoires, une défaite. Les Stingers de Concordia, qui depuis des années sont une équipe extrêmement dominante. Malgré le fait que l'année passée, regardez le championnat canadien, c'est Bishops qui est allé le gagner, mais les Stingers, encore une fois, repris où elles avaient laissé l'an passé. 12 victoires, une défaite, comme je vous disais. Jessie Maud Drapeau a 18 points. C'est elle qui mène au classement des pointeuses cette année, suivie de Gabrielle Santerre de Bishops avec 17. Donc ça va être intéressant parce qu'au-delà du classement en soi, il y a plusieurs matchs et Stingers se sont terminés par un seul but d'écart. Alors, à voir, c'est peut-être un petit peu plus serré que le classement comme tel l'indique, mais faut quand même le dire, le plus 24 au différentiel en 13 matchs pour les Stingers. Alors, encore une fois, je pense qu'elle se dirige vers un autre titre de saison régulière. Est-ce que c'est fait pour le championnat provincial pour autant? À voir, ça se passe cet hiver. Juste vous dire, peut-être quelque chose qui va être intéressant à suivre là, du côté féminin. Recrue de l'année, je lance ça comme ça. Sandrine Chouinard à Bishops, 13 points en 13 matchs. La défenseur Angélie Jobin de Concordia, qui n'a pas été reconnue pour faire énormément de points nécessairement quand tu étais au collégial à Champlain-Lennoxville, mais à Concordia, 11 points en 13 matchs depuis le début de l'année. et la gardienne de Bishops, Laurence Boivin, qui fait un superbe travail. Donc, peut-être des joueuses, des nouvelles joueuses à surveiller là, du côté universitaire avec ces trois recrues-là. Hockey collégial féminin, Limoilou, 13-1 en tête du classement. Ça va être intéressant. Elles sont suivies par John Abbott et Champlain Lennox, le trio habituel au sommet du classement collégial D1 chez les femmes. La bataille pour la quatrième place, par contre, va être intéressante entre André Laurando et Saint-Laurent cette année. Quatrième place, évidemment, qui permet de se classer pour les éliminatoires. Et allez regarder ce qui peut se passer, excusez-moi, de ce côté-là, pour voir qui aura peut-être une chance de compléter le top 4. Juste vous mentionner aussi, là, plus individuellement, le classement des marqueuses, c'est trois joueuses de Limoilou et elles ont joué 14 matchs. Là. Rosalie Breton, 23 points. Laurie Vézina, elle en a joué juste 10 matchs et elle a 21 points, dont 8 buts. Et Juliane Paradis, 21 points en 14 matchs. Bref, domination des filles de Limoilou cette année. Chez les gars, ben le classement chez les équipes masculines, ça se passe comme suit. C'est Thetford qui est en tête, suivi d'Alma, Sainte-Foy, Champlain, Saint-Laurent, les quatre équipes qui, bonjour le chat, qui s'invite vraiment dans une belle bataille à venir pour tout l'hiver. D'ailleurs, on va avoir des matchs intéressants en fin de semaine prochaine. Je vais vous en reparler, mais Sainte-Foy à Thetford vendredi soir, Champlain, Saint-Laurent à Alma samedi après-midi. Donc, les quatre équipes de tête qui s'affrontent entre elles en fin de semaine prochaine pour terminer le calendrier régulier de 2025, évidemment. Ça se poursuit en 2026 au retour des fêtes. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Volleyball, ben, je ne vous en parle pas parce que je vous l'ai dit, on va avoir un portrait complet avec Sabrina et Dani pour autant collégial et universitaire. C'est ce qui s'en vient de ce côté-là pour le menu de cette semaine au podcast Bulletin sportif. Sur ce, bonjour. Volleyball RSEQ, ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé, mais on reçoit Danny Brown, on va parler de volley, mais masculin, yep. Universitaire, collégial, on fait le tour de ça. Comment ça va, Danny?
Ben, ça va, bon. Écoute, on est déjà à moitié de l'année.
Ça va très vite. On s'était parlé avant que la saison commence. Comme tu dis, on est rendu à moitié de la saison, on s'était promis qu'on allait se reparler. Chose promise, chose due, on est là. Oui, ça va vite, ça va très vite. Puis,
on a joué au volleyball, par exemple.
C'est ça, on a du très beau volleyball, c'est le fun. D'ailleurs, on commençait par la fin, je pense qu'on n'a pas le choix. Écoute, en fin de semaine passée, on avait un Laval-Montréal pour déterminer qui finissait premier après la première moitié de saison. C'est quoi, c'est dur à battre comme événement pour avant de partir en pause. Puis on a eu tout un match de volleyball, ça s'est fini en 5-7, pour la deuxième fois de la saison de ces deux équipes-là. Fait que je pense que la bataille va être entre Laval et Montréal cette année.
Ben, tu sais, on en avait parlé un peu en début de saison quand on s'est parlé. J'avais pas vu Montréal, mais je voyais beaucoup de vidéos puis de résultats sur la préparation d'avant-match. Puis tu sais, Gazi, c'est un entraîneur d'expérience, hein. Et ces gars, ils en prennent soin, puis ils nous avaient dit, « Ah, on peut surprendre, puis ils sont là, là. Ils sont là. »
Ils sont très là.
Ils s'en sont, puis c'est... Casabon, puis c'est Considère, puis ces deux centraux, c'est pas les plus grands, là, mais ils font un job. Puis ils ont de la hargne, les deux gars, là, c'est l'enfer, là. Ça en sont le fun à regarder.
Bien, c'est intéressant, tu dis, tu sais, les centraux, c'est pas les plus grands. Les attaquants non plus, là. Tu sais, ça mesure 6 pieds 1, 6 pieds 2, les attaquants. Les deux centraux de CC4, tu t'impressionneras pas, les équipes de l'Ouest quand tu vas arriver là. Remarque qu'eux autres sont rendus habitués après Sherbrooke, là, peut-être, à arrêter de se fier de la grandeur des équipes du Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il reste que cette équipe-là de Montréal est remplie de gars aussi qu'on n'avait justement pas vu venir nécessairement, qu'on ne connaissait pas tant. Des gars qui viennent des Mavericks d'Ottawa, il y en a pas mal là-dedans. Écoute, c'est, Fait que là, tes voix arrivées, tu as Hugo Considère, tu as mentionné, mais Hugo Considère, ça, c'est un gars qui a joué pour le cégep de l'Outaouais. Fait qu'un autre gars qui vient de cette même région-là. D'ailleurs, je me posais la question, l'Université du Québec en Outaouais devrait peut-être commencer à penser à s'ouvrir la vraie succursale d'une équipe de volleyball universitaire. Disons que les gars sont pas loin, mais bon, je vais faire ma parenthèse tout de suite.
Ben, oui, ça serait le fun d'une équipe de plus, oui.
Ça oui. Mais bon, en même temps, tu sais, je comprends que c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on voudrait. Marc, ouais. Il y en a qui aiment ça se compliquer la vie, là, mais il reste que tout ça pour dire que le bassin il est là, ça, c'est sûr. Maintenant, par contre, Montréal, c'est ça. C'est une équipe qui joue collectivement, sont très athlétiques. Tu sais, tu peux pas être à 6-1, 6-2 puis être premier, comme ça, premier au classement d'un universitaire après la moitié de saison. Si t'as pas ça, ces gars-là sont très athlétiques puis défensivement, c'est un autre niveau par rapport à l'année passée encore.
Oui, puis ton corps arrière, un passeur, Maxime Saint-Denis, qui est vraiment incroyable. C'est sûr que l'an passé, il y a eu des blessures, Maxime. Ouais. Il n'a pas été beaucoup joué. Puis cette semaine à Laval, là, je l'ai vu là, tenter des passes là, audacieuses là, derrière son central, puis mettre la balle au central pareil. Écoute, ça prend une confiance incroyable, une communication entre les gars. Là, ça marche.
Ah, puis ça passe, je me rappelle plus, on était à quel 7, puis au deuxième, mais du coup, peu importe. Quand il s'en va chercher la réception, il est rendu en 4 complètement, et il envoie oui. Sa passe par en arrière, il ramène ça en 2, une passe parfaite, wow, tu sais, là, c'était vraiment puissance, agilité, tout, l'écoute, là, ça, c'est du talent, puis tu as parlé des autres moments dans le match, mais j'avais celle-là en tête, là, franchement.
Mais
c'est bien que... beau à voir, il joue rapidement, il joue efficacement. C'est une équipe solide en défense, comme je disais tantôt. Puis même au bloc, les deux gars, Grenier, Genier, Tabarouette, ça bouge 6-4, justement, ça passe pas.
Il y a des as dans cette gang-là aussi. Là, je regardais, là, bouge pas, je vais retourner voir. Là, au niveau des as, au service Ace, Montréal, Guillaume Sanson, Étienne Grenier, Hugo Considère, c'est des gars qui sont dans le top 5, les as.
Ils sont trop dans le top 5, exactement. Fait que, tu sais, ceci explique cela. À un moment donné, t'as une bonne défense, t'as des bons services, t'as des gars athlétiques qui font le travail, puis un passeur champion, là, à un moment donné, t'es là. Néanmoins, on le voit, c'est ça, mais il reste que Laval, là, est deuxième, mais c'est deux défaites. C'est les deux derniers matchs en 5-7. Fait que, tu sais, c'est pas une équipe, là, qui est larguée, au contraire, là. Mais, tu sais, le petit détail dans les deux derniers matchs, ça n'a pas été de leur bord. Ben, en fait, ils menaient 2-0, ont perdu 3-2 contre Sherbrooke. Là, tu as eu le match contre Montréal. Peut-être la pause va faire du bien, replacer les affaires puis remettre les choses à sa place parce qu'encore, c'est toute une équipe. Là.
La pause, elle ne sera pas trop longue parce que les gars s'en vont dans l'Ouest au jour de l'air.
T'as raison.
C'est une belle préparation aussi. Écoute, là, je ne veux pas avoir l'air d'un fanatique parce que je travaille avec l'Université Laval. Mais je crois quand même que Laval a la meilleure équipe du circuit cette année. Maintenant, écoute, il y avait 5 recrues sur le terrain à un moment donné. Là. Il faut tout attendre à ce que ces gars-là fassent des erreurs à un moment donné. C'est de l'expérience. Puis, j'enlève aucunement le talent au niveau athlétique. Là. Mais même Morneau, qu'on a vanté beaucoup, a eu quelques difficultés. Puis, quand c'est une difficulté, par-dessus difficulté, tu vois qu'à un moment donné... C'est l'expérience. Les gars sont nerveux c'est un ça. Peu, puis c'est normal. Perron, la même chose. Bocardi, la même chose. Puis il ne faut pas oublier que Gendron, c'est rien qu'une deuxième année. Là. T'sais, fait que l'expérience arrive, puis ça va continuer. Puis les gars vont travailler. Puis je ne suis pas inquiet, là, Gino, puis François, les entraîneurs, ils vont continuer à travailler. Là, ils savent, ils ont confiance à leurs gars. Puis Gino nous l'avait dit en entrevue en début d'année. C'est un processus. Puis, tu as vu assez de sport pour comprendre que beaucoup d'entraîneurs d'expérience travaillent beaucoup sur le processus. Et quand le processus fonctionne bien, les résultats arrivent.
Non, tu n'as pas le choix. De toute façon, à un moment donné, tu arrives à un niveau où tout le monde a du talent. Là. Fait que c'est plus une question de... Tu sais, oui, il y a une question de quantité de talent, mais ce que tu fais avec... C'est ce qui fait les petites différences ici et là. Puis t'arrives au sommet de. Tu sais, c'est les meilleures équipes au Canada, là, à un moment donné. Fait que la petite différence, c'est pas grand-chose. Puis tu l'as dit, l'expérience peut aller jouer. La nervosité, quand ça fait trois balles de suite que tu te fais servir dessus, puis t'arrives pas à remonter de la bonne façon, à placer ton équipe en bonne position. ben là, le stress embarque, tu veux bien faire. Puis ça, ben, ça s'achète pas, faut que tu le vives, faut que tu le fasses, puis c'est la job des coachs aussi de les laisser vivre ces moments-là, puis essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas.
C'est ça, puis t'arrives au filet, super attaque, coordination à pleine pine, amphithéâtre, t'es survolté, tu t'en vas au service, t'es encore sous le high, tu prends pas le temps de descendre ton rythme cardiaque, tu sers dans le filet. C'est
exact. Exactement. Là, on a vu dans le dernier match, justement, contre Montréal, où est-ce que, bon, c'est Lauzier qui a commencé en attaquant arrière, puis c'est opposé, je veux dire. Puis les deux jeunes là, qu'on a fait commencer, là, Perron et Bocardi, qui jouaient à l'aile. Bon, tu parlais justement d'avoir de la jeunesse. Le talent, encore une fois, est là et tout. Est-ce que tu t'attends, plus la saison va aller, que ça va être ça? Ou si Terrell Choisy va retrouver sa place peut-être en opposé, puis parce qu'on a une belle profondeur avec ça quand même. Là.
Oui, puis tu sais, je pense que Gino va garder les deux. Ça lui fait deux plans de match différents. Là, je veux dire, il va aller selon ce que l'adversaire va lui présenter aussi. Je pense que ça peut être un atout. On avait vu ça contre Sherbrooke avant. Match régulier, au quatrième, oh, on a vu Lauzier arriver comme opposé avec les deux jeunes. Là, cette semaine, on a commencé avec les deux jeunes, on a envoyé Lauzier. Moi, je ne peux pas dire que ça va aller vers ça jusqu'à la fin, parce que Terrell, il a une capacité athlétique incroyable. Il est plus haut que la majorité du monde, puis il frappe. Puis là, ben, tu sais, je parlais des fois que Terrell cherchait juste à frapper et à défoncer. Puis là, hop, cette semaine, on l'avait arrivé. Oh, une petite roulade par-dessus le compte, un petit type là. Peut-être qu'à un moment donné, il en a trop fait, puis ça y a joué un tour, parce que la défensive s'est ajustée. Mais non, je ne suis pas prêt à dire qu'on va aller vers jusqu'à la fin avec Lauzier en deux. Là. Moi, je pense qu'on va continuer avec Terrell, puis selon ce que l'adversaire va te donner, Gino va regarder ça comme atout dans son chose. Parce que même mal pris sur le banc, t'as encore Patrick Mainville, t'as encore Anthony Urbain qu'on n'a même pas vu encore. C'est sûr que c'est pas le talent des deux autres jeunes, mais Anthony, en plus, il n'a pas été chanceux. Blessure l'an passé, blessure il y a 2 ans. Il n'a pas eu la chance de se faire valoir comme il aimerait. D'après moi, il a hâte d'être sur le terrain. Est-ce que ça va arriver? J'y souhaite, là, parce que c'est tellement un bon gars, puis il y a tellement des parents sympathiques. Sa mère, elle m'écrit régulièrement. Mais bon, c'est pas nous les entraîneurs.
Non, exact, mais en même temps, c'est ça. Anthony Urbain, c'est un gars, c'est un joueur étoile là, au collégial. Tu sais, c'est pas un dernier venu là, qui se présente et qui essaie de faire sa place. C'est un gars qui a le talent nécessaire pour être sur un terrain. Peut-être devenir un Patrick Mainville, justement, là, tu sais, un gars de profondeur ultra stable. Tu sais, assurément que c'est le genre de. En tout cas, c'est le profil de joueur capable de l'être. Fait que tu sais pas, puis on le sait à quel point Mainville a donné des fiers services à cette équipe-là. Disons qu'il y avait un espace là, dans le 6 partant de Laval, Mainville était là, puis il ne mettait pas son équipe dans le trouble. On manquait peut-être un petit quelque chose de plus, mais il était là. Fait que quand ça va mal, puis que tes jeunes qui se perdent un peu, peut-être un Anthony Urbain, assurément, il peut arriver si en plus de Mainville, comme tu dis, qui est encore là quand même.
Et Mainville, il est dans un rôle là, cette année, on le voit là, venir en milieu de manche là, par mesure défensive en réception, on sait qu'il est très bon. Fait qu'on sort Lauzier, on lui donne un peu de repos, puis à ce moment-là, on fait rentrer Mainville. Tu vois, cette semaine, quand Lauzier était avec joueur opposé, bon, on a fait la même chose. En sortant Bocardi, on envoyait Mainville pour solidifier encore la défensive et la réception. On ne sait pas.
Comme tu dis, ce n'est pas nous autres les coachs.
Non, mais il y a eu une grosse surprise, par contre, en fin de semaine. Là. Sherbrooke
se fait battre deux fois
chez eux. Puis il y a des manches, je ne sais pas si tu as vu les pointages. Là. Il y a des manches à 25-12 puis 25-14. Là.
Absolument. Puis match, je m'en allais là, justement. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Parce que première chose que j'ai faite quand j'ai vu ces pointages-là, j'ai fait « Oh, y a-tu des blessés? Y a-tu des gars pas là? » Essentiellement, notre équipe était là. Visiblement, il s'est passé de quoi? Faut donner probablement une partie du crédit assurément à UNB, là, que, parce que tu ne gagnes pas 25-14 par erreur.
T'sais, on les a vus cette année, ils sont venus nous, chez nous, à Laval, puis c'est sensiblement la même équipe que l'an passé.
Ben, c'est ça.
C'est des équipes très acharnées défensives, puis un de tes meilleurs attaquants est Lucas Mafia. qui était un passeur de 3 ans. Là, l'an passé, on avait vu un petit peu à deux passeurs.
Ouais.
Par contre, là, je suis obligé de te dire que cette année, c'est vraiment McMorrin qui est vraiment le passeur parce que Mafia joue comme attaquant réceptionneur.
Oui.
Par contre, le père, l'entraîneur, il nous a même arrivé à un moment donné avec une combinaison où il a fait rentrer un autre passeur à la place de son choix reposé. Et là, il y avait trois passeurs sur le terrain.
Fait que il n'y avait pas trop de problèmes si la réception était mauvaise, il y avait quelqu'un qui était capable de ramasser ça quelque part.
C'est ça que je te dis là, qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus Mafia comme attaquant. Là, je bouge en même temps parce que si je ne branche pas mon ordi, on va se perdre. Mais c'est ça, effectivement, c'est des choses qui sont surprenantes. Puis Sherbrooke avait exactement le même alignement qu'on avait vu ici à Laval.
Ouais.
Donc, UNB a travaillé fort là.
UNB a travaillé fort. En même temps, tu regardes Sherbrooke. Tu sais, on parlait de mouvement personnel chez les différentes équipes. On en a parlé évidemment avant le début de la saison, mais là, on a un vrai échantillon pour analyser tout ça. Bien, la gang de Sherbrooke, là, c'était l'équipe qu'on savait que le noyau, évidemment, était modifié du fait que les vétérans, la gang du le Golden Age, si on veut, de Sherbrooke était terminé. Mais là, on voit les nouveaux gars arriver et veut pas, on n'a pas le même travail. Tu sais, tu le vois, la réception, c'est pas exactement la même chose. Tu sais, c'était des gars vétérans qui étaient là, la réception, c'est pas exactement la même chose. Et la différence devient évidente parce que le jeu au centre n'est plus le même du tout, du tout. Veut pas, ouais. Tu deviens une petite affaire plus prévisible. Fait que tes attaquants sont moins efficaces. Pas qu'ils sont mauvais du tout, au contraire. Le Delvecchio puis Mercier Noël, ça reste encore des attaquants de haut niveau dans ce ligue-là. Mais veux pas, tu es un peu plus prévisible, ben t'as deux comptes contre toi. La défense a le temps de se placer. Et tout ça s'enchaîne. Fait que t'as pas le même travail au complet. Puis je faisais le calcul, là. T'as un demi-bloc par manche de moins. Parmi tes deux centraux principaux, t'as un demi-bloc par manche de moins. T'as un demi-kill par 7 de moins pour tes trois attaquants principaux. Ben ça, en partant, là, t'as un point de moins par 7. Puis après ça, qu'est-ce que je disais? Pour tes trois attaquants, excuse-moi, c'est un kill de moins par 7. Puis t'as un. Fait que. Puis les centres, en fait, c'est un demi-kill de moins. Fait que à eux, tout ça, là, ça donne 2 points de moins par 7 en moyenne que tu fais. Ben, à un moment donné, ça te rattrape. Puis ça part d'une réception, ça part d'une constance en défense et tout. C'est à refaire là, pour Sherbrooke.
Sherbrooke va, cependant, comment va Delvecchio et Mercier Noël?
Ben, c'est ça.
On l'a vu ici chez nous, là, il y a 2 semaines, Delvecchio avait un compas à travers le compte, là, il mettait le ballon où il voulait, puis Mercier Noël récupérait tous les ballons en défensive, il était partout sur le terrain. Fait que je te dirais que si ces deux-là vont bien, ben, Sherbrooke va bien. Est-ce que c'est ce qui s'est passé contre UNB? Je sais pas, j'ai pas regardé les deux matchs, puis je peux t'avouer que je vais les regarder parce que je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Mais oui, c'est sûr qu'au centre, là, Thierry est bon, mais c'est pas Elliott Collard, c'est pas Julien Vanier non plus. C'est pas pour rien que ces gars-là ont resté sur le banc 1 an de plus parce que Vanier a décidé de revenir 1 an de plus. Puis c'est des super bons gars, mais c'est pas le même talent. Faut se l'avouer. Là.
Non, absolument. Il faut dire que, comme je dis, là, c'est un âge d'or. Là. Il se passait quelque chose. Puis, t'sais, Vanier, c'est un exceptionnel. À 6-3, il est capable d'être un central. On l'a dit tellement de fois, toi et moi, quand on a jasé ensemble. Thierry Allen, je l'ai vu jouer là, collégial à Sherbrooke. C'est un bon joueur de centre. C'est un costaud. T'sais. Mais est-ce qu'il est aussi haut? Est-ce qu'il est aussi agile que tous les autres autour qui étaient là avant lui? Il y a un élément là. Moi, je pense que c'est un bon joueur. Ce n'est pas la question.
Non.
Il ne t'offre pas ce que ces gars-là te donnaient à ce moment-là. Fait que, c'est l'idée. En tout cas, c'est parce qu'on n'a pas le choix de comparer le avant-après. Là, ça nous saute aux yeux. Mais je pense que c'est une équipe qui est peut-être capable de faire des bonnes choses. Olivier Ducharme, c'est un bon passeur. Oui, plus petit qu'évidemment Portelance. Là, mais Portelance, encore une fois, lui était peut-être le king parmi toute la gang.
Ducharme,
c'est un bon joueur. Mais c'est ça. Mais Duchamp, c'est un bon joueur, mais là, je pense que tu as créé tout ça. Il faut leur donner une coupe d'années, peut-être rajouter justement à ce joueur de centre-là, ici et là. Peut-être un gars de 6 pieds 6, 7 à un moment donné que ça va prendre pour aller faire la différence. parce que on va avoir besoin de ça. Ça manque là, en ce moment. On est clairement une équipe.
Quelques bons centraux au niveau collégial. Là. Il y en a, mettons, un ou deux à Laval. Il y en a encore un à l'Outaouais. Il y en a à Sherbrooke. On va en parler tantôt. Là. C'est sûr que l'entraîneur de Sherbrooke va graffiner. Là. C'est certain. Là, quand, même affaire partout. Gazi, dans les dernières années, il est allé piger beaucoup des Mavericks. On en a parlé tantôt.
Ouais.
Mais écoute, il ne faut pas. Puis l'entraîneur de Sherbrooke, c'est un entraîneur d'expérience. Là. Ouais. Il ne s'est pas caché. Il sait qu'il n'y a pas la même équipe qu'il y a eu pendant les 3-4 dernières années. Mais il va les travailler, c'est sûr.
Oh. Est-ce que je l'ai perdu 2 secondes?
Ben oui.
Ta caméra est comme. Tu es de retour.
Voilà. La technologie, des fois.
Des fois.
Ouais, c'est good, ça. Ben c'est ça. Ça.
Non, c'est ça. Fait que, bref, ce qui fait qu'on se retrouve avec bon, UNB en ce moment qui est troisième, qui a passé en avant de Sherbrooke avec ses 2 victoires-là. Puis Dalhousie qui ferme la marche. Fait que, je pense que ça ressemble à ce qu'on avait entrevu. Ouais. Mais n'empêche, je pense que comme tu l'as dit, Laval doit être encore perçu comme l'équipe capable d'être la numéro 1. Mais Montréal a prouvé que si tu veux être le numéro 1, il va falloir que tu sois très, 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 très constant avec ton talent. Parce que Montréal est l'équipe la plus constante, la plus solide, qui est capable d'être. Et ça devient dérangeant. On l'a vu avec Sherbrooke pendant des années. Je ne compare pas Montréal au Sherbrooke des dernières années. Mais une des forces qu'avait Sherbrooke, c'était d'être capable d'être fatigant parce que tu n'arrivais jamais. Tu avais l'impression que ton ballon ne tombait jamais à terre et qu'eux autres trouvaient tout le temps des solutions. Mais contre Montréal, c'était un peu ça en ce moment. Là. Ils font ça.
Tout à fait. Puis Saint-Denis, Maxime, le passeur, est surprenant. Son frère, le libéraux, est très, très, très bon aussi.
Exact.
Et, tu sais, on a parlé tantôt de Casabon, on considère, mais quand Sanson vient servir, c'est des boulets de canon aussi. Là. Puis, absolument. C'est une jeune équipe. Fait que les gars, à part les deux Saint-Denis, je pense que c'est les deux seuls vétérans que c'est leur dernière année. Les autres, c'est tous des joueurs.
Coulet, c'est la troisième ou quatrième. Fait que lui,
ouais, Coulet, c'est vrai.
Coulet, il est là, mais lui, c'est pas sa dernière année. Puis considère que c'est pas une couple d'années qui est là, mais c'est cette année qu'on le voit arriver. Tu sais, il avait été excellent en Outaouais, lui, mais on vient de le voir arriver parce qu'il est clos cette année, dans le fond, puis il est là. Puis il ne faut pas oublier Casabon, qui fait de l'excellent travail. Un autre relativement petit selon les standards. Ce qui fait que tu as un Vincent Tremblay qui est une recrue qu'on voit beaucoup moins. Mais imagine ce gars-là, quand tu sais, c'en est un autre là, du même format et tout, qui est extrêmement talentueux. Fait que lui aussi, il va rentrer dans le groupe éventuellement.
Puis ça, Sherbrooke, tantôt, on a parlé des différents gars, mais il ne faut pas oublier que. Rainville n'est pas là.
Exact.
Willett n'est pas là.
C'est ça.
Et Rainville a encore des problèmes de commotion, si ma mémoire est bonne. Là. Ça commence à être plate, puis peut-être même dangereux, peut-être pour sa carrière.
Effectivement.
Willett, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu sur les lignes de côté à Sherbrooke. Je ne l'ai pas vu à Laval non plus. Qu'est-ce qui se passe avec le gars, je ne sais pas. C'était quand même 2 attaquants qui pouvaient donner beaucoup, là.
Effectivement, c'est un très bon point. Là. Ça joue sur ta profondeur, assurément. Là. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, c'est des vétérans aussi. Là. Donc, en tout cas, fait que c'est à voir. Ben, écoute, rien n'est fini. Là. Il reste une demi-saison à jouer. Fait que on va avoir du bon volleyball encore, ça c'est sûr et certain.
Il va falloir avoir garder un coin de l'œil sur UNB. UNB, oui, hein? Le Suisse Moritz, il est surprenant. Puis le Brésilien, le nouveau, n'a pas joué encore.
C'est vrai, ça.
Va venir avant la fin de la saison, je ne sais pas.
Okay.
On dit beaucoup de bien. Le talent, genre, à Lucchesi qu'on a vu dans les dernières années. Fait que Laval s'en va là-bas, nous autres, à la fin du mois de janvier, à essayer de peut-être manigancer pour essayer d'y aller. Mais en tout cas, on verra.
Ben, je te le souhaite. Puis en même temps, tu nous ramèneras des petites nouvelles à savoir ce qui se passe de ce côté-là.
Oui, certain.
Donc, c'est ce qui fait notre tour du volleyball universitaire. Mais on va aller faire un petit tour du côté collégial quand même, parce qu'il faut regarder ce qui se passe de ce côté-là aussi. Limoilou, gros début de saison. Je pense qu'il y a un certain défaussé là-bas qui est en train de se positionner comme étant peut-être un candidat. Ben pas peut-être. Un candidat, assurément, éventuellement, à voir s'il va l'avoir pour le MVP. Puis t'as du côté de Sherbrooke, t'as tout le temps Chapu, là, veut pas. Fait que c'est... Mais défaussé, quel début de saison de ce côté-là. Lui, du côté de Limoilou, vraiment, là, extraordinaire. Ouais.
Limoilou, c'est beaucoup défaussé, c'est beaucoup Zach Lowe.
Ouais.
Puis avec le passeur qui est là, parce que là, l'ancien passeur est devenu libéraux. Fait que Delhomme, il fait très, très bien. Delhomme est même gaucher. Je l'ai vu frapper une balle à Limoilou, là, quelques semaines, sur une deuxième. J'avais l'impression de voir Ludovic Martin. Okay. Il est rentré dedans, solide. Non, c'est sûr que défaussé. Charbonneau, qui a manqué quelques matchs en début de saison, il est allé en volleyball de plage en compétition. Là, je crois qu'il est revenu. Mais c'est Charbonneau, ça reste Charbonneau aussi. Là, tu te ramasses avec Zach Lowe, Charbonneau, puis défaussé. T'es passeur, t'as le choix, tu mets le ballon où tu veux. T'es un petit peu dans le trouble pour le contre. Je veux pas être à la place du contrôle l'autre bord parce que tu sais pas où le ballon va aller. Là,
même si t'es 6 pieds 8 comme un Elliott Chamberlain à Sherbrooke, notamment, ça peut être difficile.
C'en est un, ça, Chamberlain, qu'on a parlé. Je sais pas quand est-ce qu'il finit, mais...
Ben lui, c'est sa deuxième année, là.
Ouais. Il y en a un en Outaouais qui finit. La Lumière, je pense qu'il finit cette année.
Sutcliffe, il finit pas, lui.
Sutcliffe en Outaouais qui termine aussi. Chaput à Sherbrooke qui termine.
Chaput à Sherbrooke termine. C'est sa quatrième année, mais lui, il est en technique policière. Là. C'est pour sûr que ça, ouais. Il a fait un an de plus.
Fait que tous ces petits gars-là, là, ben ces petits gars-là, ces gars-là, ces athlètes-là, vont être à quelque part au niveau universitaire l'an prochain, c'est à peu près certain.
Ben, Chaput, je m'attends à ce qu'il soit avec la Vert et Or, ça va être à voir, mais là, il reste que, tu sais, ça fait un paquet de gars très talentueux à aller voir dans chacune de ces équipes-là, mais on le sait, c'est Limoilou, Sherbrooke, Outaouais dans cette ligue-là en collégial D1. Ça va se passer entre ces trois équipes-là. La première moitié de saison nous l'a bien démontré. Je me demandais Outaouais avec les Perrons et Boulay qui sont partis, notamment ce que ça allait donner. Mais clairement, on a encore les gars. Là, Namdari est là. Je parlais de Sutcliffe tantôt. Fait que la force d'attaque est là. Charles-Antoine Picard aussi. Fait que non, il y a du talent de ce côté-là.
Oui, puis avec un jeune entraîneur. C'est sa première année comme entraîneur-chef, oui, Rémi, mais oui. Il a du bagage un peu. Là. Il était un an en Allemagne, il était un an assis à côté de Gino à Laval. Il a joué aussi, tu sais, il y a longtemps. Non, le gars, il fait ses devoirs. Hein. J'entends, là, il appelle souvent d'autres entraîneurs, il s'informe, puis il prend sa job très au sérieux.
Puis c'est intéressant ça, parce que tu as quand même eu une belle passe là, avec Daniel Cousmand-Grimal qui était là, qui est parti non de gaieté de cœur. Il a des raisons familiales à un moment donné qui l'ont amené à partir. D'ailleurs, il est rendu avec le staff des Carabins. Là, comme,
non, il était assis sur le banc en fin de semaine passée.
Je ne me rappelle pas de son titre. Là, je pense qu'il est assistant à la performance ou des choses comme ça. Ouais, mais
au
bref,
niveau des statistiques, des choses comme ça. Là.
Il est sûrement pas étranger au bon résultat de Montréal cette année, assurément qu'il sait de quoi il parle. C'est un gars qui a travaillé avec le programme national et tout, fait que ouais. Tu parles d'un bon bagage, c'en est un. Mais ça va être intéressant de savoir justement, est-ce que Limoilou dans ta tête à toi est l'équipe vraiment numéro un, puis les autres, ou tu sais, parce qu'ils ont 11-1, là, est-ce que c'est vraiment l'équipe numéro un, ou franchement, tu sais, tu sens Sherbrooke, puis peut-être même Outaouais, là, être dans cette catégorie-là, puis ça va fighter, ou il faut mettre Limoilou vraiment...
Outaouais, je ne suis pas sûr. Okay. Sherbrooke, ça se peut. Mais de ce que j'ai vu de Limoilou, sont comme d'une catégorie à part.
Ouais,
l'entraîneur, il nous l'a dit, c'est l'équipe pas mal la plus physique qu'il y a depuis longtemps, depuis peut-être même la COVID. On est loin des années de Ludovic, Étienne Tremblay puis Étienne Belzile au centre, là, mais il y a une belle équipe. Mackenzie au centre, c'est grand aussi, ça c'est physique. Puis le jeune libéraux.
Meilleur bloqueur de la Ligue d'ailleurs.
Poirier, comme libéraux, il est surprenant. Là, je veux dire, c'est pas ses capacités de libéraux offensifs qui me dérangeaient, c'est de voir qu'est-ce qu'il était pour faire en réception puis en défensive. Parce qu'on s'entend que comme passeur, c'est pas ce que tu travailles le plus, là, la réception de service, tu sais.
Non, c'est ça.
Il fait le travail, il est bon, il est là, puis il était connu des alentours de l'équipe, puis ça a l'air de fonctionner.
Fait que de leur côté aussi, ça va être absolument à suivre là, ce qui se passe d'ici à la fin de l'année. Faut quand même pas oublier de parler de Saint-Jean, Édouard Montpetit, Saint-Jérôme, qui sont les trois autres équipes dans cette ligue-là, parce qu'il faut avoir une bataille pour la quatrième place. Tu veux te qualifier pour les éliminatoires, puis rendu là, tu sais pas ce qui peut arriver. Saint-Jean, ouais. En ce moment, est à 4-8, les deux autres équipes à 2-10. Je sais pas comment tu vois ça.
Ben, je pense que Saint-Jean. Je suis surpris de voir Saint-Jérôme là parce que je croyais que les Cheminots de ce que je les ai vus à Limoilou, aurait une meilleure équipe que ça. T'sais, sans regarder le classement, je t'aurais dit Saint-Jérôme peut-être en quatrième position. Mais là, je ne sais pas. Saint-Jean ne m'avait pas impressionné quand je les avais vus à Limoilou non plus. Édouard Pompetit, ben, c'est un jeune programme. Je ne sais pas. Moi, je mettrais encore quand même un petit 2 sur Saint-Jérôme, là, mais à suivre.
Ben, c'est Alexandre Arsenault, hein, Saint-Jérôme, l'attaquant là, vraiment principal. Fait que là, lui, c'est à voir jusqu'à quel point il est capable d'amener son équipe au bout du compte. Là, c'est ça pareil. Mais la bataille va être intéressante parce que ces équipes-là, quand elles jouent, ça reste des bons matchs intéressants à suivre. Là. Des fois, on a cette tendance malheureuse à vouloir juste voir les matchs entre les équipes de tête, mais on a vu plusieurs bons matchs là, entre ces trois équipes-là, puis ça va être intéressant jusqu'à la fin parce que la bataille est évidente. Là. Finir 1, 2, 3, ça change. Ben, peut-être à part pour avoir tu fini 1, tu as l'avantage de jouer contre l'équipe 4 en demi-finale, évidemment, mais tu es classé. Là. Tu vas y aller. De toute façon, il faut que tu battes au moins une bonne équipe pour sortir de là avec une bannière. Mais l'équipe là, qui sera en 4, ben là, tu as une vraie chance là, d'aller poursuivre ta saison. Ça, cette bataille-là est enclenchée, puis elle est là depuis un bout de temps, puis elle va continuer dans le retour des fêtes.
C'est sûr. Puis tu sais, tu parlais des fêtes, justement, j'ai parlé avec Rock Picard à Limoilou, puis avec mon projet Volleyball en bref, on va s'installer là pendant la Coupe de l'Est cette année, la première fin de semaine, où les meilleures équipes là, en division 1, puis même les filles aussi vont être là.
Toujours un beau tournoi.
On va aller faire un petit tour là-bas, on va aller regarder ça, puis c'est là qu'on va voir nos futures vedettes universitaires.
Exact, c'est ça qui est le fun, ça nous permet de voir ceux qui s'en viennent, puis après ça, essayer de deviner où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'ils sont les trous dans les autres équipes.
Ouais, ça, je te dirais que ça a commencé à jaser déjà pas mal. Là.
C'est sûr.
Tu as sûrement entendu des choses, j'ai sûrement entendu des choses, mais je ne veux pas m'avancer, je vais attendre que les choses s'annoncent, même du côté des filles, je me suis promené, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, mais... question de ne pas brûler personne puis faire mal à personne, je vais attendre de voir si ça va être annoncé officiellement, mais il y a des belles choses qui s'en viennent dans nos équipes universitaires.
Ah, regarde, c'est ça qui est le fun, c'est le haut de la pyramide, hein? Fait qu'à un moment donné, les meilleurs des meilleurs, où est-ce qu'ils s'en vont, puis ceux qui ont la chance de continuer, là, quelle place ils vont réussir à se faire, fait que ça, c'est, évidemment, c'est ce qui rend justement, aller voir, plus on descend dans les catégories, aller voir ces jeunes-là pousser, puis voir jusqu'où
ils sont. C'est le fun de voir des entraîneurs qui ont d'autres nationalités, parce qu'au niveau universitaire, on a droit à deux joueurs internationaux, c'est pas toutes les universités qui l'utilisent, mais des fois, on a aussi des belles surprises, à Laval, on a un Français, Gazi puis Petit à Sherbrooke aussi, ils ont des gens de l'extérieur. Fait que c'est toujours le fun de voir des gars puis des filles comme ça qui arrivent. On apprend à les connaître un peu plus.
Fait qu'on on va suivre ça avec grand intérêt au retour des fêtes. On se reparle parce que là, à partir des fêtes, bien évidemment, on a écarté le football de nos occupations. Fait qu'on peut mettre de la place en masse sur le volleyball, le basket et compagnie. Fait que on va se parler plus souvent, Danny. On va suivre ce qui se passe plus régulièrement, analyser les matchs, regarder qui est en forme d'une fois à l'autre, là, puis voir comment ça va se dérouler jusqu'à la fin.
Puis là, ben, à Québec, là, je ne peux pas en parler. On a des belles choses qui s'en viennent prochainement. Gilles, on devrait avoir, je sais, la VNL revient à Québec cette année, c'est un contrat de 3 ans. Oui. Début juin, les filles cette année, Canada sera là. J'espère que Kira Van Rijk va être en santé. Oui. Mais on devrait avoir aussi des bonnes nouvelles prochainement pour la manche de la Coupe du Monde là, qui sera en 2027. Écoute, s'il fallait que ça marche en 2027, on aurait les gars au début juin, puis on aurait ce tournoi-là à août, septembre, puis après ça, c'est les Olympiques. Fait que c'est certain que les gars qui vont se présenter ici, ils vont arriver avec leurs équipes prêtes pour les Olympiques. Là.
Ah, assurément. Tu es en préparation olympique là, quand tu es l'année d'avant. Donc, non, écoute, là, on est rendu que. On le sait que le Rouge et Or, longtemps, est encore une référence en volleyball au Québec. Là, mais là, on va être. C'est rendu que la ville de Québec va être la plaque tournante du volleyball
en Amérique. Ça dépasse le Rouge et Or. Là.
C'est, ah, clairement.
Demande à Gilles et à Émile, ils vont te donner leur chiffre préféré depuis un an, c'est 12 032. C'est l'assistance
qu'on a eu
pour le match du samedi soir, qui n'a pas débattu, même pas à Pékin, puis même pas à Rio, Janeiro.
Bon, ça en dit beaucoup sur ce qu'on est capable de faire quand les gens à Québec décident de se mettre ensemble pour aller profiter d'un événement. Là. Vous êtes dur à battre, je vais le dire comme ça, sérieusement. J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'à Montréal, on soit capable de le faire de même des fois.
Et encore une fois, nos grands réseaux ne voient pas ça.
Ah, tant pis pour eux.
Si c'était pas de toi, puis de moi, puis des gens comme nous autres, on ne parlerait pas de fois le sport universitaire.
Continuons de faire notre job d'abord, ça veut dire qu'on est utile. Salut Danny, à très bientôt. Bonne journée. Ben, merci beaucoup, toi aussi. Tu passeras le mot à Gilles si jamais tu y parles. Je vais m'arranger pour qu'il soit dans le segment la prochaine fois ou une des prochaines fois, sûrement.
Good.
Salut.
Salut, bye.
Volleyball RSEQ, deuxième chronique en fait, parce qu'on a fait celle avec les gars, avec Danny. Maintenant, avec Sabrina, on va parler de ce qui se passe et de ce qui s'est passé en fait du côté féminin, parce que là, première moitié de saison de passé. Bonjour Sabrina, comment ça va?
Bonjour, ça va bien toi?
Très bien, merci, très bien, merci. Écoute, on a eu en masse de volleyball, je pense que tu en as vécu en masse toi-même comme coach d'un côté, mais ouais. On va regarder tout ce qui s'est passé. Je pense que il y a en masse d'histoires à raconter. Ce qui est le fun au volley féminin, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup d'équipes, autant universitaires, collégiales. Fait qu'on on a des matchs en masse, puis il y a de l'action en masse. Toi, tu as passé un bon automne jusqu'à maintenant. Tout va bien de ton côté. Comment ça se passe, toi, de ton bord, en fait, pour toi, là, comme coach?
Ça va bien. Continue d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, puis aussi de mixer ça avec l'école, parce que je suis aussi à l'école. Fait que... Mais tout s'emborde super bien. Fait que j'ai pas de conflit d'horaire. Puis je peux faire tout en ce moment.
Ben, tu me fais embarquer sur une affaire. Tu es passé d'étudiante athlète à étudiante entraîneur. Y a-tu un switch au-delà du fait que tu joues d'un côté, tu joues, de l'autre côté, tu prépares? Mais je veux dire, en termes d'organisation de temps, en termes de préparation, bref, tout ce que ça peut impliquer comme gymnastique d'horaire, c'est-tu plus compliqué, égal, moins compliqué? Comment ça marche?
Bien, je te dirais que c'est beaucoup moins compliqué, surtout que j'ai un rôle d'assistante entraîneur. Donc, je suis plus là pour soutenir les entraîneurs, les challenger les filles. Oui, d'un côté, il faut, tu sais, j'apprends des choses puis tout, puis je peux prendre un lead sur certaines choses, mais après ça, moi, pendant le match, j'ai, tu sais, je peux juste observer puis dire des commentaires. Je n'ai pas à performer comme je le faisais avant. Fait que c'est une charge mentale de moins. Bien, différente, je dirais. Différente. C'est sûr que j'aimerais ça continuer à jouer, mais ouais. Là, j'ai un autre rôle. Fait que c'est... Puis mon programme en ce moment, il est vraiment, vraiment pas comme super exigeant. Donc, on dirait que c'est comme plus relax. On dirait que j'apprends à prendre un vrai rythme de vie, là.
Vrai au sens que, justement, être athlète, c'est tellement particulier que là, tu as l'impression de mixer job et travail comme bien d'autres personnes font. C'est juste que toi, ça reste dans le domaine sportif.
Oui, exact.
Justement, hier soir, comme bien du monde, je flippais mes réseaux sociaux puis je voyais Béatrice Lamarche qui a fait une vidéo avec des filles, des gars qui, justement... donner des conseils ou en tout cas avait des commentaires à faire par rapport à la fin de la vie d'athlète puis de passer, tu sais, faire ta transition. Mm-hmm. Toi, justement, cette transition-là jusqu'à maintenant, est-ce que le fait d'être de rester dans le domaine du volleyball, ça te facilite l'affaire? Ou, comme tu parlais, j'aimerais ça jouer, à quel point... Bon, évidemment, on sent bien que ça te manque à quelque part, mais à quel point, justement, de rester dans le volley... Ça facilite cette transition-là ou au contraire, d'être collé dessus constamment, ça donne encore plus envie d'être sur le terrain?
Je pense que ça l'aide un peu de rester dans le... pour ma part, de rester dans le volley. Tu sais, souvent, je dis aux gens, c'est pas nécessairement le sport en tant que tel qui me manque. C'est pas nécessairement de jouer au volley qui me manque. C'est de compétitionner, c'est d'avoir l'adrénaline avant un match, c'est de représenter quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Je pense qu'il fait en sorte que c'est ce qui me manque le plus, là, de vraiment de me préparer pour quelque chose, pour représenter quelque chose. C'est sûr que je le fais en étant assistante coach, mais c'est un apprentissage, c'est une compétition différente, c'est des feelings différents, c'est une implication différente aussi. Donc, c'est de jongler avec ça. Fait que je pense que c'est plus le côté compétition qui me manque, plus que de jouer au volleyball.
Je comprends, c'est intéressant. Ouais. Mais effectivement, quand, encore là, la compétition est là justement du fait que tu veux que ton équipe gagne, il y a quelque chose. En même temps, moi, pour l'avoir vécu, évidemment, ça fait longtemps, mais quand même, il y a quand même l'élément de quand tu es sur le banc en train de coacher, des fois, c'est encore plus stressant parce que tu n'as vraiment aucun contrôle. Tu voudrais être dans le jeu, tu voudrais avoir ton implication, même si ça allait mal, même si à la limite, tu pouvais perdre le match, tu sais. Ça reste que quand tu joues, tu es concentré sur ta game. Tandis que quand tu le bats à côté, on dirait qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent être stressantes sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Je trouve que ça amenait justement une autre forme de stress qui n'est pas tout le temps évidente à gérer non plus.
Exactement. Puis, tu sais, des fois, je retrouve un peu des fois mon intensité de joueuse quand je coach. C'est arrivé une couple de fois qu'André m'a demandé de me calmer. Pas parce que j'étais trop intense envers les filles, mais tu sais, l'énergie dans le match, des fois, je suis bien bonne là, pour challenger des fois les arbitres, fait que des fois, l'intensité monte. Mais je suis pleine de bonnes intentions, là. C'est pas, négatif.
On apprend à gérer nos émotions toute notre vie, fait que ça, c'est bien correct. Ouais. En général, de toute façon,
en continuité.
T'as pas fini, je te le dis tout de suite. Bon, ben garde, cool, tant mieux, je suis content de voir que ça se passe bien de ton bord. Fait qu'on on va pouvoir en parler parce qu'évidemment, on va parler de collégial avec André Laurando, notamment, t'en parles un peu, on va y aller tantôt. C'est sûr que je veux revenir sur ce qui s'est passé en première moitié de saison au niveau universitaire. On en avait parlé au début de l'année. On a mis la table avec toi, puis le portrait ressemble à ce que tu disais, c'est-à-dire que Sherbrooke allait être là. Fiche parfaite jusqu'à maintenant, Sherbrooke est là. On dirait une équipe qui surfe une vague, pas au sens où est-ce qu'elles ont l'air de prendre ça trop facilement, mais justement, elles travaillent bien, elles prennent la vague là où est-ce que c'est, puis on dirait qu'elles savent l'amener jusqu'au bout. Est-ce que ça peut être tricky, façon de parler, si tu me permets l'expression, ça peut être risqué pour elles de justement être là-dedans? Ou leur expérience de l'année passée où elles avaient pris l'avance en début de saison, puis malheureusement, ça ne s'est pas terminé autant comme elles le voulaient. Est-ce que cette expérience-là va les aider justement à continuer à travailler comme ça, puis à continuer à aller sur cette belle lancée-là? Parce qu'elles semblent vraiment être l'équipe numéro un qui est établie.
Mmh. Mais tu vois, moi, je trouve qu'elles n'ont pas l'air de surfer une vague. J'ai l'impression qu'elles contrôlent la vague.
Ah, intéressant.
Avec 3 sets de perdus. En 10 matchs, c'est incroyable. En pensant qu'elles en ont perdu 2 sur 3 dans le même match.
Oui.
Puis, elles laissent aucune chance à leur adversaire. Puis, le match qu'elles ont gagné en 5 contre Montréal, tu sais, souvent, on va être comme, on va se reprendre au prochain match. Bien, Sherbrooke, elles se sont repris au 5e set. Elles ont donné aucune chance à Montréal. Elles ont gagné, je pense, 15-5. Donc, c'est une équipe qui s'ajuste vraiment rapidement. Qui, comme tout le monde, va avoir des petits passages à vide, mais clairement, leurs passages à vide sont très courts. Puis beaucoup de monde peut contribuer à leur performance. Fait que ça fait en sorte qu'il y a une grande profondeur. Elles l'ont montré. Là, même les joueuses qui jouent moins souvent performent très bien et gagnent quand même 3-0. Donc, je trouve que elles semblent en contrôle.
Oui, vraiment. Puis, tu sais, juste même statistiquement, je regardais les deux premières. Quand on va chercher les statistiques sur le site, premières affaires qu'on nous montre, c'est le pourcentage d'attaques marquantes, le hitting percentage. Là, elles sont les meilleures en haut de 300. C'est extraordinaire. Puis leurs opposantes, elles sont à 0,79. Fait que non seulement elles sont extrêmement efficaces, mais elles le sont des deux côtés du ballon. Parce que pour empêcher l'autre équipe de jouer pour plus que de frapper pour plus que 100, les garder en bas de ça, c'est ça veut dire que tu bloques, ça veut dire que tu défends, ça veut dire que tu rends leur tâche difficile, probablement que tu sers bien aussi. Il y a un paquet d'éléments. Elles sont très, très, très complètes. Puis j'ajoute à ça que Elle-Marie Filion est probablement en ce moment à son sommet. On dirait que là, on l'a vu encore grimper d'un coup. Tu vas me dire que le reste aide, mais elle place ses joueuses tout le temps en bonne position.
Oui, puis tu sais, c'est le fun. Les stats parlent d'elles-mêmes, là, clairement. Mais il y a un truc qui manque dans ces stats-là, c'est le nombre de points que les autres équipes n'ont pas pu faire parce que Sherbrooke les ont mis en difficulté. Tu sais, ils ont 30% d'efficacité à l'attaque, ce qui est vraiment très élevé pour une équipe. Ben, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils sont premières, mais peut-être que leur pourcentage aurait pu être plus élevé si on incluait toutes les balles qu'elles n'ont pas marquées directement, mais qui ont mis l'adversaire en difficulté, parce que elles ont des très bonnes attaquantes, très intelligentes, puis c'est pas facile de jouer contre Sherbrooke. Il faut vraiment que tu te prépares très bien, puis même à ça, ben, tu sais pas où la balle va aller, parce que comme tu as dit, Elle-Marie est capable de passer à n'importe qui, de les mettre dans les bonnes situations, donc il faut que tu sois 100% tout le temps en état d'alerte.
Puis on va leur souhaiter de rester en santé, parce que c'est toujours la question, mais elles jouent du très, très, très beau volleyball. Mm-hmm. Elles font mal, malheureusement, font mal paraître leurs adversaires à chaque fois que je rappelle. Moi, toutes les fois, j'ai regardé un match de Sherbrooke, je me dis, coudonc, l'autre équipe, là, mais c'est elles, elles sont tellement fortes, elles font mal paraître leurs adversaires. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les adversaires ne sont pas de calibre, ils n'ont pas de talent, au contraire. Puis je vais aller directement à Laval, évidemment, qui est deuxième actuellement. Laval qui a changé un paquet de joueuses, des joueuses qui étaient là, mais qui ont pris une nouvelle place cette année. Puis je vais le dire à l'aile, les deux, le Bourgeois d'Aigle, Charrette, là, que de puissance. Puis Bourgeois d'Aigle, en plus, au service, qui est extraordinaire. Mais que de puissance, c'est vraiment... Avant, on avait une équipe, il y a beaucoup de rotation à l'aile à Laval, où est-ce que tu avais beaucoup de joueurs. Là, on a deux joueuses qui ont pris la place, qui sont installées là. Évidemment, tu as Justine Raymond qui est à l'opposé, qui est là depuis toujours, puis qui il fait une job qu'on fait quasiment d'oublier, tellement on prend pour acquis qu'elle va faire son travail. Mais les deux autres Bourgeois d'Aigle, Charrette, c'est impressionnant. On a développé énormément de puissance de ce côté-là.
Vraiment, puis ça fait en sorte que ça facilite probablement le travail de Justine. Parce que dans les dernières années, oui, elles avaient des bonnes attaquantes, mais qui performaient autant et qui avaient autant de points par match, là, pas juste un match, mais vraiment à tous les matchs. Ça fait en sorte qu'ils ont tout le temps trois attaquantes qui sont dangereuses. Même si Justine, on essaie de la contrôler, elle est incontrôlable. Justine, c'est Justine, elle frappe fort, elle est haute et tout, elle est agressive. Mais là, d'avoir deux joueuses comme ça aussi à l'aile, ça fait en sorte que c'est vraiment difficile aussi de jouer contre la balle.
Puis il y a une centrale, Enrika Elefsen, que j'ai appris à découvrir cette année. Je ne la connaissais pas, puis très impressionnante, extrêmement solide. Ça, c'est beaucoup de constance au centre de sa part. En tout cas, je l'aime beaucoup, autant au contre, son efficacité à l'attaque. Bref, c'est une joueuse extrêmement efficace au filet. Est-ce que c'est un élément, tu penses, qui ajoute à Laval, justement, d'avoir cette constance-là? C'est important. Les meilleures équipes ont toujours une certaine constance au centre. Puis là, j'ai l'impression qu'on a gagné en constance là, avec elle.
Mm-hmm. Le centre, c'est une position tellement ingrate. On te demande de tout faire, puis tu vas avoir tellement peu de balles, tu vas avoir peu de reward, là, comme on dit, là, mm-hmm. le petit bonbon là, de... Puis, je pense que leurs deux centrales font vraiment le bon travail. Justement, là, c'est deux filles qui viennent pas... Je pense que c'est deux filles qui viennent pas du D1 au collégial. Ce qui fait en sorte que, ben, ils ont dû probablement mettre les bouchées doubles dans les pratiques. Puis d'avoir un haut niveau comme ça à la balle, ben, clairement qu'elles ont appris vraiment rapidement. Elles ont embarqué dans le bateau. Puis ça fait que les deux ont des performances comme ça, là, qui permettent justement de donner des chances aux ailières. Parce qu'elles veulent pas... Oui... La responsabilité d'une passeuse, c'est de mettre ses attaquantes dans les meilleures positions possibles, mais elle a besoin de ses centrales pour ça. Il faut que ses centrales soient crédibles, il faut que ses centrales fassent du bon travail, puis c'est ça qu'elles font à Laval en ce moment.
Exact, exact. Parce qu'évidemment, je parlais de l'Efsen, mais il y a Léonie Goupil là-dedans. Fait que ça va être intéressant à suivre, parce que Laval va continuer à faire une équipe, justement, qui je pense, gagne en constance, qui va peut-être assurément... les équipes constantes, c'est tout le temps fatigant à affronter. Puis Laval... C'est dans son ADN d'être fatigante à affronter. Elles ont toujours été comme ça. Là, si en plus, on rajoute puissance puis on rajoute d'autres éléments là, où est-ce qu'on devient encore plus efficace, bien, ça les rend plus dangereuses. La troisième équipe actuellement au classement, c'est l'UQAM. Tu l'avais dit, l'UQAM allait être solide. Tu l'avais annoncé. Moi, j'avais des points d'interrogation à un paquet d'endroits. Tu l'avais vu venir. C'est pour ça que c'est toi l'experte. J'aime bien certaines choses. Gosselin en deux, je pense qu'on t'a parlé de sa puissance. Là, je pense qu'on est capable de l'exploiter beaucoup en l'utilisant en deux. Est-ce que c'est le plus gros élément différenciateur, tu dirais, pour l'UQAM, là, de pouvoir utiliser Juliette Gosselin comme ça en deux, puis peut-être justement gagner, être plus solide en attaque finalement là, avec elle à cette position?
Bien, je pense que ça donne vraiment beaucoup d'options à l'UQAM, là, on a une attaquante qui performe bien, on a une joueuse de deux qui performe bien, ce qui fait en sorte que ben, tu peux ouvrir ton filet un petit peu plus. Les centrales ont bien fait aussi, là, ont été efficaces dans leur rôle, mais vraiment là, d'avoir une aide pour Jade en Juliette. Puis Juliette, c'est pas une personne silencieuse, c'est une personne vraiment, là, tu sais, quand elle fait un point, là, tu le vois là, dans la web diffusion de loin. Elle a le feu en dedans d'elle, elle est vraiment intense, ce qui fait en sorte ben, que quand elle fait un gros point comme ça, parce que c'est pas des petits points qu'elle fait. Là. Elle frappe fort, elle frappe bas, elle pète des balles, là, comme on dit.
Oui.
Ça fait en sorte que ça donne tellement d'énergie à une équipe quand il se passe ça. Puis ben là, ça arrive plusieurs fois par match. Fait que ça fait en sorte qu'elles peuvent reprendre le momentum tellement facilement ou le garder pendant plus longtemps.
Tu parlais de Jade, bien évidemment, Jade Généreux qui a vraiment une saison fantastique. Là, on connaît son talent, on le sait qu'elle est là, mais son expérience, elle gagne en expérience, fait qu'on le voit encore plus. Il y a probablement encore plus d'efficacité, probablement justement moins de balles qui sont frappées dans des comptes qui font juste revenir. J'ai l'impression qu'elle va gagner des duels au filet avec encore plus de régularité. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as observé, mais visiblement, talent est là, mais là, quand tu continues de t'améliorer en plus, Jade Généreux est là pour un bout de temps, c'est l'attaquante là, vraiment de l'UQAM qui fait la différence. Celle qui a pris la place d'une certaine Sabrina Maillé qui faisait ça à une certaine époque. Mais bref, Jade Généreux, vraiment, je pense qu'elle est dans cette lignée-là, justement, avec l'UQAM.
Ben, elle a eu la chance en sa première année d'être une leader offensive, t'sais, de prendre ce rôle-là. Elle pouvait pas s'appuyer. Ben, on peut tout le temps s'appuyer sur les autres pour nous aider, mais c'était elle qui devait fournir les points. Donc, rapidement, elle a dû prendre un rôle et elle l'a bien fait. Puis, elle est juste en ce moment dans un continuum de ce rôle-là. Puis, elle comme on disait, là, ben là, on a deux attaquantes vraiment prioritaires à l'UQAM. Même si les équipes ont probablement un très bon plan de match contre elle, elle performe quand même à sa deuxième année, ce qui est vraiment très, très bon pour l'UQAM.
Absolument. Je me posais des questions, par contre, par rapport à l'UQAM. On a vu Provencher et Dubuc avoir beaucoup de temps de jeu. Moi, suite à l'année passée, je m'attendais à ce que Dubuc, bon, allait être la numéro un clair. C'était... Mais on a vu Provencher, qui fait du bon travail en passant à Provencher, mais est-ce que tu t'attendais à avoir cette séparation, si on veut, du temps de jeu de cette façon-là? Est-ce que c'était voulu par les entraîneurs ou il y a une situation particulière qui amenait à ça? Parce que je me pose tout le temps la question, moi, quand je vois deux passeuses séparer le temps de jeu, est-ce qu'on va être capable justement de créer toute la cohésion qu'on a besoin de créer avec notre passeuse, entre les passeuses et les attaquantes, évidemment?
Je t'avouerais que moi non plus, je ne m'attendais pas à autant de changements comme ça de passeurs. En plus, Ariane Provencher a joué et c'est le match qu'ils ont gagné contre Montréal.
Exact.
Elle a fait un très bon travail. Je t'avouerai que j'ai aucune idée de la raison pour laquelle il y a un changement comme ça. Ariane, c'est quand même une plus vieille qui a de l'expérience, pas nécessairement tout le temps sur le jeu, mais qui a beaucoup d'expérience dans l'équipe et tout. Donc, je pense que c'est une personne qui est capable de mettre ses joueuses en confiance. Il y a probablement beaucoup de facteurs là, qui peuvent influencer cette décision-là, mais à date, ça a été payant de varier leurs passeurs. Donc, possiblement qu'ils vont continuer ou ben, si ça dépendait vraiment d'un facteur spécifique, peut-être qu'on va voir quelque chose de différent après Noël.
Non, puis c'est intéressant que tu parles justement de l'expérience d'Ariane parce que c'est pas juste ça fait longtemps qu'elle est là, ce qui est une chose, mais elle a tout le temps été impliquée parce qu'on la faisait rentrer comme sur des services en défensive. Donc, c'est une joueuse qui a été impliquée dans le jeu. C'est pas juste quelqu'un qui attendait son tour pour pouvoir passer. Donc, ça peut-être ça lui permet d'avoir une certaine place, mais un leadership qui est clair là, dans l'équipe à ce moment-là, parce que c'est tellement important pour une passeuse, justement, d'exercer ce leadership-là. Alors, probablement qu'elle est capable, c'est peut-être plus facile, justement, pour René Pelletier de la faire rentrer là, sur le terrain puis de l'utiliser autant que, ou presque, qu'Anna.
Mm-hmm, exactement. Puis, si je peux rajouter aussi une autre joueuse que, personnellement, je ne m'attendais pas à voir performer autant, parce que son rôle est vraiment très différent. C'est, mon Dieu, j'ai oublié son nom, Rosalys Batallon, qui,
oui.
Selon moi, de ma perspective de spectateur, a fait gagner l'UQAM contre Montréal. C'est une joueuse, si les gens ne l'ont pas vu jouer, c'est une joueuse qui a un rôle de spécialiste au service et en défensive, qui rentre pour servir. Et elle a laissé aucune chance dans les trois sets que l'UQAM a gagné contre Montréal. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que souvent, ces joueuses-là peuvent faire une différence, mais ne sont pas nécessairement reconnues parce que ce n'est pas elle qui fait le gros de la job. Mais littéralement, dans ce match-là, vous irez voir les gens, les sets que l'UQAM a gagné, elle a fait un excellent travail. Elle a accompli son rôle à 100%. Puis ça prouve aussi que peu importe ton rôle, tu peux avoir un impact sur le match, sur le résultat du match, clairement. Puis elle continue à aider l'UQAM dans son rôle.
Ah, très intéressant. C'est bon d'amener ça, en effet. Quatrième équipe au classement pour l'instant, Montréal. Mm-hmm. Montréal qui a eu un drôle de début de saison qu'on n'attendait peut-être pas comme ça, mais ont eu juste assez de performances intéressantes pour dire « OK, ils sont là ». Bon, évidemment, ils ont eu des changements de leur côté. Il y a des vétérans qui sont partis. Mais, tu sais, on a encore une certaine partie de l'ADN de cette équipe-là qui est là, malgré le fait qu'on peut changer les joueuses. Puis, moi, je faut que je cible tout de suite Lantier et Galant au bloc, encore une fois, au centre. On parlait du goal de centrale qui peut être ingrat parce qu'on n'a pas nécessairement les chiffres ou les balles à quantité industrielle pour se démarquer. Mais ces deux filles-là stabilisent tellement de choses, rendent la vie difficile à leurs adversaires. Galant était excellente au bloc, au collégial. Là, elle est rendue à prendre la place au niveau universitaire. Elle continue son travail de ce côté-là. Lantier continue son travail de l'année passée. Moi, je cite beaucoup leur travail. Là, je regarde beaucoup ce que ces deux-là font pour Montréal. Puis ça, ben, je pense que ça peut les rendre très difficiles, justement. Peut-être les ramener au niveau parce qu'on regarde le classement, puis c'est pas ce qu'on est habitué de voir, mais ça reste une équipe qui va être difficile à affronter, qui va falloir sur laquelle il va falloir compter jusqu'à la fin, je pense.
Mm-hmm. Montréal a toujours été une équipe physique, donc leur bloc a tout le temps été un souci pour les attaquantes là, de passer par-dessus, à côté, à travers. Il faut trouver une solution, puis je pense que c'est vraiment dans leur identité, le bloc à Montréal, puis elles font très bien, puis ça leur fait gagner beaucoup de points là, quand même. Donc je pense que c'est vraiment une de leurs armes là, pour gagner des matchs.
Puis on voit que c'est Naomi Babi qui est maintenant la passeuse, évidemment. Puis, un solide travail. C'est la première au niveau du nombre d'assists cette saison. Donc, c'en est une autre, ça, qui est une vétérane qui arrive, que c'est sa première année où est-ce qu'elle prend le rôle de numéro un, mais elle a été préparée. C'est ça aussi, Montréal, c'est que la profondeur fait qu'on prépare des joueuses. On la voit arriver, elle fait du très bon travail. Puis bon, on a encore des attaquantes de haut niveau. Qu'est-ce qui fait, justement, que peut-être cette équipe-là, qui a les joueuses et tout, n'a pas réussi à avoir les performances qu'on s'attendait en début de saison? Y a-t-il quelque chose que tu as remarqué en particulier?
Mais je pense que quand on sort d'une saison tellement haute en émotion, c'est difficile de se recentrer et de se créer une identité en tant qu'équipe quand c'est pas la même chose, quand c'est plus la même équipe. On va repartir sur des bases, on va partir sur des éléments qu'on a mis en place les dernières années, mais de partir d'une identité cette année, c'est quand même un challenge pour toutes les équipes. Puis probablement encore plus pour elles, étant donné qu'elles ont maintenant un statut encore plus élevé de « elles ont gagné la médaille d'argent au Canadien l'année dernière ». Puis je pense que justement, c'est de se retrouver dans cette image-là de « ça, c'était l'année dernière ». Peut-être que les équipes, ben, soit elles se préparent encore mieux parce qu'elles savent que ben, elles peuvent performer puis elles sont dangereuses, ou elle s'en fout complètement, puis c'était l'année dernière. Donc, je pense que c'est s'assurer de tout le temps se préparer avec les armes qu'on a cette année, de trouver les rôles des filles. Je pense que, tu sais, des fois, on peut se perdre là-dedans un peu dans les saisons précédentes. Puis, en fait, je pense que c'est une question de temps avant qu'elles se retrouvent. Puis, ils ont déjà commencé là, avec les dernières performances de leur dernier match. Je pense que ça commence à se mettre en place. Puis, je suis pas inquiète pour après Noël, là. Vraiment pas.
Non, c'est ça. Puis on le sait qu'Olivier Trudel fait souvent ça, au sens où est-ce qu'il va faire des essais à première moitié de saison. Puis là, à un moment donné, son équipe se place. C'est comme s'il trouvait la recette qui fait son affaire. Et ça ressemble peut-être à ça encore une fois cette année. Fait que ça va être intéressant de voir justement en deuxième moitié de saison. Je ne suis pas sûr que Sherbrooke et Laval ont hâte de les affronter. Puis on va peut-être, évidemment, on ne choisit jamais notre adversaire, mais si on finit première et qu'on est capable de les éviter autant que possible, ça peut être une chose, mais je dis encore là, finir première, ça impliquerait que Montréal passe en avant du CAM, finir troisième. Bref, l'équipe qui va les affronter en première ronde en éliminatoire va avoir tout un défi, c'est sûr et certain.
C'est certain. Puis, tu sais, Olivier, il est bon. Tu sais, souvent, on va dire il joue avec le feu, là, mais tu sais, Oli, il connaît son feu. Là. Fait que je pense que tu sais, il a assez d'expérience pour justement savoir la limite où il peut aller pour challenger ses joueurs puis leur donner des défis puis justement là, les faire performer après Noël.
L'équipe qui est cinquième actuellement. Et là, on tombe dans les équipes qui doivent se battre pour essayer d'avoir cette fameuse dernière place en éliminatoire. Là, ben, tu as l'UQAM Montréal qui sont 3-4, puis que, mais avec Montréal qui a de l'air d'être, d'avoir placé ses choses, mis le train sur ses rails, ça va être difficile pour McGill et l'UQTR, qui sont les deux équipes qui suivent. Puis je vais aller avec McGill. Il manque de constance du côté de McGill. Il y a vraiment des difficultés. Je ne sais pas, je n'arrive pas à pointer une affaire en particulier. La perte de Lancôme n'a sûrement pas aidé en deux, assurément, parce que c'est une joueuse qui arrivait à créer beaucoup d'attaques et créer des choses. Fait que ça n'aide pas. Mais tu sais, on a une seule joueuse qui a une moyenne de 1 kill par 7. Écoute, c'est ça saute aux yeux là, d'avoir autant de aussi peu d'efficacité en attaque. Puis ça. En même temps, je me dis, il y a tellement de place à l'amélioration que peut-être qu'on va passer à l'autre étape et qu'on va arriver. Et là, à ce moment-là, peut-être que McGill va devenir une équipe dangereuse parce que c'est frappant, je trouve, à quel point on passait d'une équipe dans les dernières années où est-ce qu'on avait tellement d'efficacité en attaque. Puis là, en avoir si peu, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est tout simplement la réception? Qu'est-ce qui arrive là, pour avec cette équipe-là de McGill? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour passer peut-être justement à l'autre niveau puis continuer de se battre pour une place en éliminatoire?
Bien, je pense que c'est de continuer justement à travailler fort en pratique. Tu sais, d'après moi, les éléments en ce moment, je pense que les filles, on voit le Evel, elles performent, peu importe le score. Tu sais, souvent, là, tu peux voir à leur page Instagram quand ils mettent des points pendant les matchs. On voit tellement d'intention, de feu, d'intensité. C'est ça que même si après tu vois le score qui n'est pas si élevé, donc je pense qu'en ce moment, ils sont en train de construire quelque chose de nouveau. Je pense que c'est de prendre les bases qu'il y avait avant, un peu comme Montréal pour l'année dernière. Mais de là, c'est de recréer une culture d'équipe avec une nouvelle entraîneur. Je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Je pense qu'il y a des défis rattachés à ça. Mais justement, je pense que c'est d'apprendre à mieux travailler ensemble, à continuer à travailler fort chaque point. Puis avec le recrutement qui va s'en venir dans les prochaines années, je pense que justement, c'est de bâtir quelque chose qui fait en sorte que on va peut-être avoir plus de puissance à l'attaque, on va peut-être être plus offensive. Parce qu'on a quand même des bonnes joueuses en récepte. Il faut juste, après ça, convertir en points. Je pense qu'ils ont une bonne passeuse pour les remettre en système. Donc,
c'est ça qui est intéressant. Je me demandais justement, tu parles d'aller chercher les bonnes joueuses. Moi, tu sais, Sandrine Méthode, c'est une fille que j'ai tout le temps apprécié regarder jouer, tout, mais là, elle est rendue à l'aile. Donc, tu sais, ça aussi, là, veut pas. Et on le voit juste dans le nombre de passes qu'elle peut recevoir. C'est spécial de voir que Grigorova reçoit beaucoup plus, au centre, reçoit beaucoup plus de passes qu'elle à l'aile. Il y a quelque chose de particulier quand on fait juste, puis là, je vois que les stats, on le voit dans les matchs aussi, une façon dont le jeu se déploie par McGill. Puis oubliez les matchs contre Sherbrooke, là, parce que quand je disais faire mal paraître une équipe, mais même dans les autres parties où est-ce qu'on les sentait mieux performer, il y a quelque chose de non orthodoxe dans la façon dont le jeu se déroule, on dirait, avec l'équipe de McGill. Je ne sais pas si c'est voulu, justement, pour essayer de débalancer l'équipe de l'autre côté ou si c'est simplement parce que, la force des choses fait qu'on essaye des affaires. Puis je ne sais pas comment tu le vois de ce côté-là.
Bien, d'après moi, je pense que c'est un peu de tout. Je pense que, justement, là, avec la perte de Lancôme, les changements de position, faire en sorte que de trouver un équilibre là-dedans, ça, c'est là qu'il y a le challenge, puis de trouver justement la performance. Sandrine Méthode, c'était une centrale avant qui est devenue à l'aile. Il y a tellement de choses qui est différent dans ce rôle-là, autant dans la technique que dans les positions que tu vas jouer dans le match, que ton rôle, que tu sais, plein de choses. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment qui doivent s'ajuster à chaque match. Fait que ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Mais justement, c'est de continuer à être ouverte à travailler dans cette optique-là, parce que probablement qu'elles ont un but à long terme avec ces rôles-là.
Intéressant, intéressant. L'UQTR maintenant, comment tu vois? Je sais que c'était une équipe que tu espérais voir aller se battre. Bon, je ne dirais pas que c'est une surprise, ça n'est pas une, on les voit. C'est sur une position qui est normale en milieu de peloton comme ça. Est-ce que tu t'attends à les voir encore plus se battre pour en deuxième moitié de saison, être en position peut-être justement d'aller chercher une ou deux victoires contre des équipes de tête, parce que ça va prendre ça si on veut être capable de se qualifier.
UQTR vont avoir un gros mandat après Noël, justement, là, comme tu dis, elles vont devoir gagner des matchs contre les quatre équipes qui sont en haut d'elles pour espérer faire les playoffs. Je pense qu'il faut qu'elles trouvent une identité, il faut qu'elles trouvent... il y a eu beaucoup de roulements de joueuses, je pense qu'on manque un petit peu de constance à ce niveau-là. Je pense que les joueuses, justement, elles doivent continuer à essayer de trouver des façons de marquer. La majorité des matchs, elles sont capables de maintenir une équipe. Mais après ça, c'est de le finir le point, c'est de finir le set sur une victoire, d'aller chercher les points importants. Puis je pense que c'est encore un apprentissage que cette équipe-là fait. Elles ont des très bonnes athlètes qui sont capables de faire des points puis de maintenir le match. Elles ont une excellente libéro qui challenge toutes les balles. Je pense justement, là, c'est vraiment de trouver son identité en tant qu'équipe puis de finir, d'être capable de closer un set, de performer dans les moments importants.
Puis on voit que les adversaires, parce qu'on voyait l'UQTR grimper en termes de niveau dans les dernières années, les adversaires se sont probablement ajustés à ça. On évite Camille Fortier notamment, on évite d'être de son bord. Puis ça... probablement que ça paraît justement dans la façon où les autres doivent être impliqués différemment. Fait que on place pas des balles devant elle parce qu'on sait à quel point elle est solide au bloc. Puis de l'autre bord aussi, tu sais, c'est ça, on a besoin d'aller malgré tout trouver des solutions. Oui, les balles vont passer probablement justement parce qu'il y a ça, mais en même temps, trouver le moyen de prendre des balles des fois qui sont peut-être des balles difficiles, on est hors système, trouver le moyen de marquer des points. Pareil dans ces cas-là, ce que les très, très bonnes équipes arrivent à faire. Des fois, il y a une balle qui est placée nulle part, puis il y en a une qui sort de justement nulle part, ça vient réussir une grosse attaque. Il faut avoir des joueuses de l'UQTR qui arrivent à être capables de faire ça plus régulièrement. C'est peut-être ça, là aussi, qui va leur permettre de gagner des sets ici et là, puis se placer dans des matchs.
Exact, parce que c'est une équipe qui est capable de faire des rallyes. Elles vont maintenir un échange en vie tellement longtemps, mais souvent, elles vont finir par faire l'erreur. Donc, ce qui fait en sorte que, souvent, là, quand tu es une attaquante, ça peut être frustrant de ne pas marquer au premier, au deuxième, au troisième, mais il faut que tu aies une force de caractère puis une intelligence de jeu qui fait en sorte que tu vas peut-être frapper plus fort ou tu vas plus tourner ton poignet ou tu vas plus viser une zone. C'est juste de trouver la manière de marquer sa balle, même si la première, deuxième, troisième fois, ça l'a pas fonctionné. Je pense que c'est le challenge.
C'est ça. Surtout si c'est ton identité de garder les points en vie, tu sais que ça risque d'être long. Fait qu'il faut que tu gardes cette patience-là. C'est intéressant. On a l'UQAC, l'ETS. Son cul de peloton, oui. Qu'est-ce que tu vois de ces deux équipes-là? Est-ce que tu sens des deux équipes là, qui sont... Tu sais, l'ETS, peut-être qu'il y avait plus de reconstruction, façon de parler. Là, il y a eu bien des changements. Mais l'UQAC, est-ce que c'est des équipes, justement, que tu vois se placer, gagner en rythme, être capable, justement, de dire, OK, de plus en plus, on est dans le match, on donne des oppositions. Comment tu vois ces deux équipes-là?
Bien, je voudrais mentionner premièrement les deux premières victoires de l'ETS dans le circuit universitaire.
Oui, absolument.
Fait qu'elles ont gagné leurs deux matchs en 5-7 contre l'UQAC avec des scores quand même serrés. Je pense que c'est une belle façon justement d'avoir ces deux premières victoires-là, justement d'avoir travaillé pour puis d'avoir réussi. Je pense que le deuxième match a fini au cinquième set 20-18. Ce qui fait en sorte que c'est de l'expérience, puis c'est des bonnes expériences pour des joueuses comme ça. Puis autant pour les filles de l'UQAC qui ont perdu ces matchs-là, elles ont quand même travaillé jusqu'à la fin. Puis je pense que c'est deux équipes justement là, qui vont continuer à se développer. Je vois passer les joueuses du match souvent là, de l'UQAC, puis c'est souvent des plus jeunes. Donc je pense qu'ils ont une bonne relève, qu'ils vont apprendre à performer. au fil des années, puis qui vont prendre un rythme aussi un petit peu plus élevé.
Non, intéressant, parce que c'est ça, c'est toujours ça. C'est victoire-défaite, ça, c'est une chose. Tu ne veux pas tomber dans des spirales, mais en même temps, c'est ça, c'est de voir, voir comment ces équipes-là continuent à progresser puis à aller se placer. On ne s'attend pas à des championnats dans deux ans nécessairement, quoique, why not? Mais il reste que, c'est ça, c'est de voir, justement, pas trop traîner de la patte, mais rattraper le peloton. Puis c'est là que ça devient intéressant, parce que tu veux que chaque match, j'ai de la misère avec mon... Chaque match a une signification, puis elles sont importantes aussi. Donc, voilà. Fait que ça fait quand même un solide tour de ce qui s'est passé du côté universitaire. Je vais laisser le monde déterminer à partir de là comment voit les choses d'ici la fin. De toute façon, au retour des fêtes, on va se parler plus souvent. Fait qu'on va avoir un feedback plus temps réel, façon de parler de ce qui se passe dans les différents matchs, puis comment les tendances se placent pour les équipes. Je vais aller quand même du côté collégial, justement. On en a parlé au début. Je veux voir avec toi qu'est-ce qui se passe. Évidemment, tu es impliqué comme assistant entraîneur avec André Laurando. D'ailleurs, on va y en parler tout de suite. 3 victoires, 3 derniers matchs. Fait que ça, c'est très intéressant pour l'équipe. Parle-moi-en, justement, de ce qui se passe avec le Boomerang. Est-ce que, justement, ces 3 victoires-là, ça donne quoi là, comme boost? Puis, est-ce que c'est 3 victoires attendues, pas attendues? Comment vous aviez travaillé pour ça? Est-ce que c'est quoi le feeling autour de ça?
Ben, premièrement, je pense que ça fait du bien aux filles. T'sais, 3 victoires de suite, ça fait longtemps que ça ne s'est pas produit, André Laurando, là, depuis l'année 2018-2019. Donc, ça fait longtemps. Là. T'sais, quand on parle d'avant la COVID, c'est il y a quelques... Ça, c'est loin, là. Donc, je pense que, justement, c'est une belle preuve d'implication des filles, autant en pratique que dans les matchs, mais aussi une intention de vouloir remettre une culture gagnante, de remettre une culture de performance. Puis la majorité de notre équipe, c'est des deuxièmes années. Donc, c'est des filles qui vont apprendre, entre autres aussi pour l'année prochaine, qui vont être leur dernière année. Donc, je pense que justement, là, ça reflète un peu le travail que ces filles-là ont fait dernièrement là, dans le dernier mois. Puis, ça fait du bien, là, je pense. Puis, tu sais, ça leur a donné qu'on avait 2 matchs de suite contre les 2 équipes qui sont à la fin du classement. Si on n'avait pas eu ces matchs-là de suite, on n'aurait peut-être pas gagné 3 matchs de suite. Mais ça, la vie a bien fait les choses. On avait une opportunité, puis on est allé la chercher. Ce que je trouve de fun, justement, c'est pas juste on a gagné contre une équipe qui est 7e. On est allé la chercher quand même parce qu'on était 7e puis 8e, nous autres aussi, dans le temps. T'sais, donc, ça fait en sorte que, justement, on a été opportunistes, on a travaillé fort, puis ça fait du bien.
Bien, c'est ça, ça fait du bien les victoires. L'autre côté, en même temps, tu le dis, puis c'est intéressant parce que ces équipes-là qui sont 7-8e veulent battre l'équipe qui est 6 en se disant, tu sais, c'est ma façon de monter. Mm-hmm. Fait que toi, quand tu es à cette position-là, tu protèges, tu sais, évidemment, puis toi, tu veux monter, évidemment, à 5 et 4. Fait qu'il faut que tu gagnes ces matchs-là. Fait qu'il y a... Tu sais, des fois, on va dire, ah, tu as battu les équipes de bas de classement, mais le stress, il est là pour cette équipe-là. C'est de s'assurer de gagner ces matchs-là. Puis le challenge, il est là parce que tu as une bataille de position à aller chercher. Il faut que tu les battes. Alors que l'équipe numéro 1, 2, évidemment que c'est l'objectif ultime, c'est d'aller les battre. Mais ton objectif peut-être plus court terme, moyen terme, et pas d'aller nécessairement dire, ben, je suis supposé battre les grosses équipes. Non, c'est de dire, peux-tu battre les équipes qui sont autour de moi au classement le plus possible. Fait que de le faire, ça rajoute aussi là, à l'importance. C'est pas une question juste de dire ben, j'ai battu les équipes qui étaient en bas de moi au classement, c'est normal. Donc, il fallait qu'il le fasse, puis vous l'avez fait et bien fait en plus.
Ouais. Puis dans les autres défaites qu'on a eues avant, ben, on voyait comme un chemin qui se créait là, de performance. T'sais, on a commencé en gagnant aucun set, on garde d'aller en chercher un, on est capable d'aller en chercher un, puis après ça, ben, d'être capable d'aller chercher les matchs au complet. C'est une belle preuve de caractère là, pour ces filles-là.
Absolument, absolument. Évidemment, parler d'équipe 1 et 2 et compagnie, il faut parler de Garneau. Si Sherbrooke, chez les filles universitaires, c'est une domination, je pense que Garneau aussi a sa domination, c'est impressionnant. Elles sont en contrôle de la situation. L'année passée, championne, Mais il y a encore des joueuses qui étaient là, qui continuent d'être là, puis ça paraît toute une équipe de volley cette année.
Exactement. Puis on pourra parler de long et en large de Marie-Lou Couture, qui fait un excellent travail avec son équipe. N'en vient pas moins qu'elle gagne quand même si elle ne joue pas.
Oui.
C'est une équipe qui est capable de performer avec toutes ses joueuses. Donc, je pense que justement, ça fait en sorte que, ben, un peu comme Sherbrooke, elles ont extrêmement beaucoup de profondeur. Puis, elles ont l'opportunité de donner de l'expérience à des plus jeunes. Puis, même si elles échappaient à un match, là, ça, je pense pas que ça changerait grand-chose, mais ça fait en sorte qu'elles peuvent se permettre justement de donner de l'expérience à ces plus jeunes pour construire un avenir.
Oui, parce que c'est une roue qui tourne. J'aime ça que tu te l'amènes là-dedans. Il y a un cycle tout le temps dans des programmes. C'est pas pour rien que certains programmes arrivent à se maintenir. Puis c'est pas juste des cycles où est-ce que ah, on a été bonne un an ou deux, puis après ça, on tombe en bas, puis il faut rebâtir tout le temps. Mais celles qui se maintiennent, ces équipes-là, ces programmes-là qui se maintiennent, c'est parce que malgré le fait, oui, on attire des bonnes recrues, là, ça aide, mais il reste que malgré ça, on laisse pas nos recrues poireter pendant un an et demi sur le banc avant de voir du terrain. Non, on les met en situation, on travaille avec elles, puis on établit des standards élevés dès le départ. Ce qui fait que quand elles ont un gros rôle à prendre, puis quand on va arriver avec des gros matchs, puis elles vont être prêtes parce qu'elles vont l'avoir vu, on ne va pas juste dire ben, tu as le talent, tu es supposé être là. Non, on les a préparées, puis pas juste en entraînement, on les a vues en situation de match. Ça fait du vidéo aussi à analyser en situation de match parce que c'est beau dire en pratique, est-ce que tu bombes tes balles à la bonne place, est-ce que tu frappes des balles de telle façon, c'est correct, mais en situation de match, ou est-ce que c'est un peu plus chaotique qu'en pratique, veux pas, ou est-ce qu'il y a du stress, ou est-ce qu'il y a des enjeux, ben on est capable de lire puis d'avoir de l'info là, qui nous permet de faire développer nos joueurs. Fait que ça, c'est important, tu le mentionnes, ouais. Les équipes font ça.
Puis ça fonctionne. Ça, le jour où ça ne fonctionnera plus, les gens ne le feront plus. Mais en ce moment, ben, elles ont l'opportunité et ça fonctionne. Donc, on ne pourrait pas cracher dessus. Ça ne servira à rien de gagner tous nos matchs 3-0 en battant les équipes à 14.
Non, exact.
Tu ne fais pas d'apprentissage. Oui, il peut y avoir certains apprentissages, mais là, tu peux le partager à toute ton équipe en même temps. C'est ça qui est le fun pour Garneau.
Exactement, exactement. Fait que là, on a ça de Garneau. Mais là, celles qui suivent, Sherbrooke, Édouard, mon petit. Bon, ça va être intéressant de voir s'il y en a une des deux qui va pouvoir aller grappiller quelque chose à Garneau. Mais ça reste que c'est du bon volley. Sherbrooke était parti très, très, très solidement d'ailleurs. Édouard, mon petit, on le sait, on parlait de programme qui est constant, mais Édouard, mon petit, depuis des années, c'est là. Comment tu vois la suite des choses pour ces deux équipes-là? Est-ce qu'il y en a une des deux qui, d'après toi, est un petit peu en avant ou c'est vraiment une bataille là, entre ces deux-là pour la deuxième place, classement saison régulière, là, mais les éliminatoires championnat provincial, on verra rendu là, mais il reste que y a-tu quelque chose que tu vois de ces équipes-là qui te fait ressortir quelque chose ou qui te fait dire qu'il y en a une des deux qui est peut-être petite touche en avant ou c'est laquelle des deux pourrait peut-être justement aller déranger Garneau?
Bien, c'est difficile à dire parce que d'un côté, on a une équipe de Sherbrooke qui ont d'excellentes joueuses, qui jouent bien ensemble, avec une excellente recrue qui performe très bien en F. Joly. Puis de l'autre côté, on a Edouard Monpetit qui, un peu comme Garneau, bien, peut-être un petit peu plus, fait jouer littéralement tout le monde.
Ouais.
Fait que on dirait qu'après Noël, bien, ça va être de voir qu'est-ce qui va se concrétiser pour Edouard Monpetit dans qui performe mieux, qui fait gagner des matchs, pour éventuellement être capable d'aller chercher le match contre Garneau, que ce soit en saison ou au provincial. Donc, justement, c'est difficile à dire parce qu'on a une équipe qui est beaucoup stable dans leur six partants, dans les filles qui jouent, qui performent très bien, donc ça fonctionne. Puis de l'autre côté, ben, on a une équipe qui performe aussi, mais en utilisant tout le monde. Peut-être un petit peu moins facilement que si elle jouait juste avec un 6 partant, vu que ben, récemment, elles sont allées beaucoup en 5-7. Ouais, je pense que c'est difficile à dire parce qu'on peut pas tant les comparer, étant donné que les deux équipes gèrent complètement leur équipe de manière différente.
C'est intéressant. Puis pour la suite, bien évidemment, là, on a Outaouais, Bois de Boulogne, Lionel Groulx, équipe intéressante, mais justement, peut-être des équipes qui se fie beaucoup plus à une ou deux joueuses. C'est peut-être ça la différence, justement. Il y a peut-être une différence de profondeur. Bois de Boulogne, Jovanovic, puis à Lionel Groulx d'Amboise, notamment. Là, je nomme celle-là. Mais c'est des équipes qui, peut-être, ont des joueuses exceptionnelles qui sont là. On est peut-être obligé de compter un petit peu plus sur elle, miser un petit peu plus sur elle. Ça va être intéressant de voir là, comment on va être capable d'intégrer peut-être un peu plus de joueuses dans les succès de l'équipe. Pas qu'elles ne sont pas là. Ça reste un jeu d'équipe, puis tout le monde doit contribuer. Je ne pense pas qu'ils ne contribuent pas les autres. Mais on voit que ça, les succès, les différenciateurs passent par des joueuses plus ciblées dans ces équipes-là que dans celles de tête.
Mm-hmm. Puis, mais la chose, par exemple, c'est que j'ai l'impression que, mettons, mis à part Garneau, tout le monde en ce moment pourrait se battre.
Okay.
J'ai l'impression que malgré qu'il y a des équipes qui ont des joueuses un petit peu plus développées, formées, d'expérience, qui sont plus puissantes, ça fait en sorte quand même que ben à cet âge-là, je pense que tout le monde peut aller chercher des sets contre tout le monde. Je pense qu'on on l'a vu, là, je vais redescendre un peu dans les matchs, mais les équipes sont capables d'aller chercher des sets contre Garneau, ce qui fait en sorte qu'entre nous, elles peuvent aller chercher des sets, là, je pense. Edon, mon petit, ont gagné en 5-7 contre Trois-Rivières, ont gagné en 5-7 contre Jonquière. Le match Bois de Boulogne-Sherbrooke en 5-7, encore une fois. Je pense que justement, ça va être intéressant, surtout la deuxième moitié de saison, justement, de comment les équipes se préparent pour gagner. Parce que justement, là, on le voit, c'est difficile de gagner. Tout le monde se challenge, tout le monde peut avoir un bon match ou un moins bon match, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Puis souvent, les joueuses que tu as nommées vont faire la différence quand même. Fait que c'est de voir est-ce qu'on contrôle plus ces joueuses-là ou on contrôle plus les autres joueuses. Donc c'est plein de petits... c'est comme un peu un jeu d'échecs là, de savoir quel move on fait à quel moment pour se donner une chance de gagner.
Puis là, comme tu dis, bien évidemment, là, les entraîneurs, tout le monde se place tranquillement, pas vite, ce jeu d'échecs-là, place ses pions, place ses pièces pour se positionner en vue de l'éventuel championnat provincial. Fait que ça va être vraiment intéressant. On suit ça assurément au retour des fêtes parce que ça va recommencer tout ça. Et comme je le disais tantôt, on va t'avoir plus souvent avec nous à ce moment-là pour analyser tout ça. Fait qu'un gros, gros, gros merci, Sabrina, pour le tour que tu as fait avec nous du volleyball universitaire collégial. Franchement, du travail de pro. Merci beaucoup. Sérieusement, je sais que c'est beaucoup de travail à analyser tout ça. Fait que c'est extrêmement apprécié.
Merci à toi. Merci à toi. J'aime toujours ça parler de volley. Je suis tout le temps là pour parler de volley.
Et moi aussi, j'aime ça parler de volley. Fait qu'on va s'arranger pour en parler plus souvent. D'ici là, je te souhaite des excellentes fêtes parce qu'on est rendu là dans l'année. Qu'est-ce que tu veux? Puis on se reparle au retour là, début janvier, mi-janvier. On va être là puis on recommence tout ça. Et on aura en masse de volleyball de se mettre sous la dent. Bien hâte d'en reparler. Oui.
Joyeuses fêtes. Merci encore.
Merci, salut. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine un beau programme consacré au volley. La semaine prochaine, on va être consacré au basket surtout. Et manquez pas ça, on devrait avoir une entrevue également avec Emmanuel Bronsard, entraîneur-chef de l'équipe de flag football des Aigles d'Onsic. Oui, on revient sur du flag football. Belle discussion à avoir qui s'en vient avec elle la semaine prochaine. On va parler de l'état du flag football, de son rôle à elle, de son parcours à elle. Une ancienne joueuse de l'UQAM notamment. On va bien hâte de jaser avec elle. C'est vraiment une personne importante dans le développement du flag football et de nos joueuses ici au Québec. Donc, bien hâte de vous présenter cette entrevue-là la semaine prochaine. Et je termine en vous disant une nouvelle que j'ai oublié de vous annoncer en levée de rideau du podcast. On a appris ce mercredi matin que le nouvel entraîneur-chef de la nouvelle équipe de hockey masculin universitaire du Vert et Or de Sherbrooke sera M. Dominique Desmarais. Fort intéressant parce que Dominique Desmarais a travaillé avec Bishops chez les femmes, a travaillé avec Champlain-Lennoxville au Collégial D1 chez les hommes et maintenant il se joint au Vert et Or pour monter ce programme-là, aller créer de toutes pièces le programme du Vert et Or en hockey masculin qui va probablement commencer en D2. Mais on voit ça tranquillement. Hein? C'est en train de se placer une conférence québécoise, je pense, qui s'en vient. Là. Évidemment, les équipes D2 probablement, ultimement, pourraient se joindre aux équipes qui sont déjà en D1, qui jouent au UA. Tranquillement, pas vite. Je dis tranquillement, pas vite. À quel point? À voir. Mais assurément là, qu'on est en train de voir la naissance de cette conférence québécoise qu'on attend depuis longtemps et qu'on espère depuis longtemps en hockey masculin universitaire. Ça s'en vient. Bref, Dominique Desmarais, félicitations à lui. Très bonne personne pour s'occuper de ça et un gars bien connu dans la région de Sherbrooke qui, franchement, je pense qu'il saura faire ce qu'il faut. Un gars qui a tous les contacts nécessaires, assurément de bonne connaissance de hockey, bonne connaissance de tout le domaine de notre hockey en milieu étudiant au Québec. Donc, bravo et bonne chance à lui. Sur ce, je vous invite en fin de semaine à aller voir des choses. C'est pas fini au hockey. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, au hockey collégial, là, les quatre équipes de tête. Thetford, Alma, Sainte-Foy, Saint-Laurent. Fait que Thetford contre reçoit Sainte-Foy vendredi 19h30 et Champlain-Saint-Laurent sera à Alma samedi 14h. Des bons matchs à aller voir sur place et des bons matchs à regarder en ligne si vous ne pouvez pas y aller, mais je vous le dis, là, du bon hockey qui va se jouer là. Surveillez ça. Et en athlétisme, du côté de Sherbrooke, le Vert et Or, excusez-moi, pas du côté de Sherbrooke, du côté de l'Université Laval, c'est l'invitation Rouge et Or le 6 décembre. C'est la première rencontre d'athlétisme de la saison 25-26. Donc, allez voir ça. Toujours intéressant de voir ça. C'est nos athlètes qui oui, se préparent ultimement. Là, les invitations servent beaucoup à se préparer pour les championnats provinciaux. Mais n'empêche, des belles occasions de voir du monde se qualifier. Puis même faire des temps ou des performances qui pourraient leur permettre d'aller chercher tout de suite leur qualification pour les championnats canadiens. Donc, ça se passe du côté de l'Université Laval. De l'athlétisme, toujours intéressant, permet de voir plein de sports en même temps. Des performances qui seront assurément à suivre. Du moins, nous autres, on va regarder ça et on vous en reparle la semaine prochaine. Salut!